I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsqu'elle est allée fêter le jour de l'an à Berlin, Lucia ne se doutait pas une seconde que cette soirée allait changer le cours de sa vie. Un coup de foudre et quelques mois plus tard, elle se retrouvait enceinte en Allemagne sans parler la langue du pays. Alors imaginez tout le suivi de grossesse et un accouchement sans comprendre un mot de ce qu'on vous dit et surtout sans pouvoir expliquer que, là on a des contractions sacrément douloureuses. Dans cet épisode, Lucia nous raconte sa virée berlinoise entre copines, ses débuts de relations à distance, sa prise en charge à la maternité et sa vie de maman expat en Allemagne, entre maman comblée et femme isolée. Bonne écoute. Bonjour Lucia, merci beaucoup de partager ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour, bonjour Shane.
Alors, tu as vécu 9 ans à Londres. Comment tu es arrivée là-bas?
Alors, comment je suis arrivée là-bas? Alors, à la base, c'était pour apprendre l'anglais. Après mon BTS, je me suis dit, je vais aller en Angleterre. Et en fait, en un week-end, je suis tombée amoureuse de cette ville. Et du coup, j'ai décidé d'y aller, à la base, pour quelques années, même pas, pour apprendre l'anglais, pour améliorer mon anglais et revenir en France avec un superbe anglais. Et en fait, 9 ans plus tard, au fur et à mesure, je me disais, je vais rester encore un an. Et voilà. Et en fait, j'ai fait 10 ans au total.
Et alors, tu as eu un déplacement à Berlin?
Alors en fait, justement, alors ça, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai eu un déplacement à Berlin, en fait, avec des copines, on s'est dit... Où est-ce qu'on pourrait passer en fait le réveillon le 31 et vu qu'on n'était pas on savait pas trop où et on s'est dit tiens si on se faisait un voyage et en fait l'Allemagne venait de gagner la Coupe du Monde et on s'est dit mais pourquoi pas Berlin et donc 6 mois plus tard et 3 semaines plus tard après avoir réservé la soirée on se retrouve à Berlin. Alors déjà j'arrive dans cette ville, je me dis putain c'est assez sympa quand même, c'est assez joli, c'est ça m'a rappelé Londres à ses débuts, tout simplement. Au début, je suis arrivée à Londres, c'était très cosmopolite, c'était super... je sais pas comment expliquer, mais il y avait un côté très naturel, en fait. Et quand je suis arrivée à Berlin, j'ai retrouvé cette sensation. Donc, c'était déjà les premières heures où on arrivait dans Berlin. Je me suis dit, mais waouh, c'est génial, cette ville. Et en fait, on arrive, on va dans la soirée. Et sur scène, en fait, je vois un homme. Et j'ai à ma copine, je lui dis, mon Dieu... Ma vie va changer, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, ma vie va changer.
Ah ouais.
Et ce qui est marrant, c'est qu'elle, plus tard, m'a dit, mais moi, je crois que t'étais bourrée. Je lui ai dit, non, on venait juste d'arriver. Comment je pouvais être bourrée? Mais en fait, c'était ça, de suite, en fait, je l'ai vu et... comme je dis à chaque fois, j'aurais voulu ressentir ce moment parce que c'était vraiment incroyable et c'était vraiment le... Ouais, voilà, comme tu dis, coup de foudre. Et en même temps, ça a été un truc où vraiment de se dire, mon Dieu, c'est lui, c'est mon prochain copain, c'est lui. Et... Mais toute la soirée, je me dis, comment je vais faire pour pouvoir lui parler? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on part vers 4h, 5h du matin et je suis un peu dégoûtée. Et ma copine me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais en fait, je ne lui ai pas parlé. Elle me dit, mais t'aurais dû me dire, j'aurais essayé de vous faire, de vous présenter. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas et tout. Mais elle me dit, mais tu sais, je suis sûre qu'il est sur Facebook parce que quand on a booké la soirée, je suis sûre qu'il avait mis un commentaire. Et en fait, je sais plus tard qu'en fait, qu'il s'occupe également il s'occupait des réseaux sociaux de la boîte également. Donc elle me dit, va sur Facebook et tu verras. Et en fait, échange toute la journée. On finit par se voir le soir. On va manger japonais tous ensemble. Avec mes amis. En fait, ce qui est marrant, c'est que la table est en L. Et en fait, on est tous les deux au coin et on fait que discuter toute la soirée. Et ça a commencé comme ça. On est parti après dans un bar. Et pareil, tous les deux, on fait que discuter. Et au moment de se quitter, donc lui, il est avec deux de ses copains. Moi, j'ai avec les trois filles. Et on va pour prendre le tramway. Et en fait, on se dit au revoir. Et nos mains se touchent. Et là, je sais que ce que j'ai eu la veille, c'était pas rien. Il y a un truc qui va se passer avec cette personne-là. Et en fait, on s'est revus le lendemain. C'est ce qui s'est passé. On s'est revus le lendemain. On a discuté. Et lui m'a dit, c'est simple. Moi, je veux pas un truc vite fait, quoi. Je veux pas un truc vite fait. T'habites à Londres. Et t'habites à Londres. Et voilà, quoi. Je veux pas un truc... un truc vraiment à la va-vite. Seulement, on se voit et puis c'est tout, quoi. Et je lui dis, ben, tu sais que ça tombe bien parce que moi, ça fait 9 ans que j'habite en Angleterre. Et en fait, je sais que ça arrivait à la fin. Et c'est ça qui était marrant, c'est que j'avais ce sentiment depuis... 1 an, 2 ans que je sentais que ça arrivait à la fin, mais impossible de me dire. Je commençais déjà à me dire, voilà, il y a autre chose, il y a autre chose pour moi. C'est, même si Londres, ça restera toujours ma ville de cœur, mais je me disais, bon, où est-ce que je pourrais aller habiter ? Donc j'avais pensé, peut-être l'Amérique latine, ça pourrait être sympa. J'avais même pensé, aller en Guadeloupe parce que j'ai de la famille. Il y avait vraiment. Mais pas revenir en France, ça c'était sûr. Donc voilà. Et du coup, en fait, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, c'est simple, en fait, je pourrais venir habiter ici. Et lui me dit, mais est-ce que t'es sûre et tout? Je lui dis, oui. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est simple. On va se donner 1 an. On va voir comment ça se passe pendant les 1 an. Et au bout d'un an, je viendrai m'installer à Berlin. Et donc, du coup, pendant 1 an, en fait, on a fait aller-retour, en se rendant visite. Et à part, donc, on s'est rencontrés le 1er janvier. Et en fait, mois de juin, grande révélation où il me dit, qu'il m'aime, qu'il veut être avec moi, qu'il veut fonder une famille. Etc. Et donc, du coup, je me dis, ok, super, mais je commence à avoir ce petit moment de panique quand même, de me dire, ok, Berlin, allemand, comment je vais faire? Est-ce que j'y arriverai?
Parce que lui, il parlait quelle langue?
En fait, on parlait en anglais. Okay. C'est-à-dire que tous les deux, en fait, on parlait en anglais. Dès qu'on s'est rencontrés, c'était l'anglais. Et donc, du coup, en fait, tout ça pour dire, qu'en fait, à ce moment-là, il me dit, qu'il est vraiment 100% sûr, qu'il veut être avec moi, qu'il veut qu'on fonde une famille et qu'on se marie, etc. Et donc, forcément, je me dis, au début, comme je disais, petite panique, mais vite fait, je me dis, ok, super, quoi, c'est ce que je veux aussi, je veux avoir une famille, donc super. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se dit, on essaiera d'avoir un enfant. Et ce qui se passe, c'est que, octobre, je suis enceinte.
Et donc, 4 mois après...
4 mois après la déclaration, mais en gros, 9 mois après notre rencontre, en fait. Mais vu qu'on le voulait, donc c'était une superbe surprise. Effectivement, pour nos familles respectives, c'était un peu le... ok, c'était un peu surprenant, même si ma mère, dès le début, en fait, quand je lui ai dit, dès que j'ai rencontré Jimmy, je lui ai dit, écoute, je pense que j'irai m'installer à Berlin d'ici un an. Et elle m'a encouragée tout de suite, m'a vraiment encouragée. Mais c'est vrai qu'après, l'histoire d'avoir un enfant tout de suite, c'est sûr que c'était pas forcément dans le plan parfait de et surtout que nous on s'était toujours dit on va se marier d'abord et après se marier on va avoir un enfant. Non, je suis tombée enceinte. Il m'a demandé en fiançailles en novembre et on s'était dit on va se marier avant que Charlotte arrive. Chose qui ne s'est pas faite parce qu'en fait au début je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression tous les deux et en fait ça nous a plus stressé qu'autre chose et après une fois qu'elle était là on s'est dit mariage. Ça a plus son importance. Mais c'est comme ça qu'on s'est... En fait, c'est la grande histoire, c'est ça.
Et alors, du coup, tu tombes enceinte. Toi, tu étais à Londres.
Exactement.
Lui, était à Berlin.
Exactement.
Comment t'as géré ça?
Alors ça, déjà, je lui annonce cette nouvelle, donc déjà, du coup, par téléphone. Et la réaction était forcément le blanc, parce que même si on se dit qu'on veut avoir un enfant, on se dit, ça y est, quoi, c'est là. Il y a quand même ce truc qui nous reste, qui l'a laissé bouche bée, et moi aussi. Et en fait, le début de la grossesse, du coup, c'est sans lui, on va dire que les premières semaines... En fait, je l'ai su le 4 octobre et je devais aller à Berlin le 15. Donc, il y a eu ce moment de se dire, ok, au moins, on va se voir. Et en fait, donc jusque-là, ça allait, sauf au moment où moi, je suis revenue toute seule. Où là, tu dis, j'étais encore toute seule jusqu'à temps que j'emménage. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que je reviens en plus de Berlin où j'ai des saignements, donc je panique. Donc, toute seule, il faut que j'aille à l'hôpital. Ça s'est bien passé, tout compte fait. La dame m'a dit, mais non, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Mais je lui ai dit, ok. Au début de grossesse, se passait pas très bien. Donc, du coup, j'avoue que ça, le fait qu'il n'était pas là, c'est vraiment dur parce que lui, forcément, se sentait pas inutile, mais un peu dans le. Tu me dis tout ça, mais je peux rien faire. Donc, c'est vrai que c'était dur parce que tu as envie de raconter quand même ta journée, raconter que tu as des douleurs, raconter que ça va pas, que tu n'arrives pas à manger comme tu mangeais avant et que tu te sens pas bien, que tu te sens fatiguée, etc. Et que tu aurais voulu que la personne soit là pour t'aider et lui-même aurait voulu être là et qu'en fait, il peut pas. Donc, autant tout au début, je me disais non, mais c'est pas grave. Et même lui, quand il me disait non, mais j'aurais voulu venir, je me disais non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais je peux comprendre quand il m'a dit plus tard, mais pour moi, tu te rends pas compte à quel point j'étais angoissée. Ouais. Toi, à la rigueur, tu étais avec le bébé. particulier, moi j'étais pas là. Et c'est vrai que l'une des choses par exemple qui a fait la différence aussi, c'est que j'ai avant, pour aller travailler, j'étais à vélo tout le temps à vélo, et je m'étais toujours dit ouais, quand je serai enceinte je continuerai le vélo, et en fait non, grosse crise de panique aussi, pareil, parce que lui il me dit écoute, si t'arrives quelque chose, moi je ne suis pas à côté. Et donc du coup j'ai arrêté le vélo net, et moi aussi il faut dire que j'ai eu cette petite peur de ah ouais non, franchement en fait ça m'embêterait que j'ai d'avoir un accident, qu'il y ait quelque chose au bébé, et voilà quoi, quelque part lui il est loin, il faut au moins que je fasse attention. Et tout ça pour dire en fait que ouais non, au début c'était voilà, c'était pas facile.
Et comment s'est passé le suivi à Londres?
Alors à Londres, j'ai pas aimé du tout. En fait, le suivi c'est simple. Quand dès que vous êtes enceinte, alors moi je me suis dit OK, on va directement chez gynéco. Non, en fait, vous allez chez votre généraliste. Donc le généraliste voilà, en disant voilà, vous êtes enceinte et tout, etc., qui tout en fait vous réfère à un hôpital, et après c'est l'hôpital qui prend le département maternité de l'hôpital, qui prend directement contact avec vous pour vous donner un premier rendez-vous, qui a été dans mon cas, alors mis à part la fois où je suis allée à l'hôpital parce que j'avais des saignements, mais sinon mis à part ça, en fait le prochain rendez-vous était prévu près de 10 semaines plus tard. Donc moi ça, c'est un truc qui m'a un peu paniquée, parce que pendant toute cette période là j'ai eu des douleurs, et quand j'appelais le médecin en expliquant, en fait il me disait oui mais bon voilà, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous, est-ce que vous avez des saignements, non, est-ce que vous avez ceci, non, reposez-vous. Ok, super, mais du coup il n'y avait pas d'accompagnement jusqu'à ce moment là et même quand j'ai fait ce rendez-vous que j'ai eu en novembre, c'était seulement pour voir en fait si je sais plus c'est quel test. En fait, c'était seulement pour faire un test en fait, pour savoir en fait si le bébé n'avait pas de
malformation.
Exactement, voilà, c'était seulement ça. Et après ma première échographie, à 3 mois. À 3 mois, et donc voilà, et entre temps rien du tout, c'est à dire il n'y a pas de, et tout ça c'est pas un gynécologue, c'est vraiment vous allez voilà chez le médecin, après quand à l'hôpital voilà on m'a fait faire des prises de sang, donc c'est les infirmières, donc il y a en fait le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment voilà, on était plusieurs femmes, d'aller à, on appelle votre numéro ou votre nom et vous y allez, et à aucun moment d'échange en fait, où on vous demande ben, comment se passe la grossesse, comment allez-vous, comment ça se passe. Ça, j'ai eu ça, je crois, début décembre, par une sage-femme qui m'a contactée. Donc ça, pareil, ça fait partie voilà, de leur système, mais il y a une sage-femme qui vous contacte. Et là aussi, pareil, où elle vous pose des questions sur voilà, vos antécédents médicaux, et voilà, quelques questions comme ça, mais pas de... En fait, vos craintes, c'est Internet qui a réussi à m'aider. Et voilà. Et c'est, en fait, comme je dis, voilà, la dernière chose que j'ai fait à Londres, c'était en décembre, et c'était la dernière échographie quand j'étais à plus de 12 semaines.
D'accord. Donc, voilà. Et donc après, tu es partie à Berlin, tu as démissionné. Exactement.
Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai donné ma démission déjà depuis le 1er octobre. Et en fait, j'ai su que j'étais enceinte le 4 octobre. Donc c'est là où je me dis, ah, zut, j'aurais pu faire. Mais bon, bref, en fait, voilà. Donc du coup, c'est déjà prévu que je parte. Et donc je suis partie en plus le 24 décembre. De mon boulot, et c'est ça aussi le truc, c'est que j'étais manager, donc du coup ça aussi c'est ce qui était super dur pour moi, parce que j'étais quelqu'un qui déjà tous les j'étais manager dans un magasin de luxe, donc tous les jours en talons, tous les jours en train de voilà de courir à droite à gauche, et d'un seul coup c'est vrai qu'avec la grossesse ouais j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, donc je comme j'aime bien le dire parce que je trouve ça marrant, je poussais des sacs Yves Saint Laurent pour pouvoir m'asseoir là où je pouvais. Mon équipe était super, par contre je dois dire que voilà, je l'ai pas dit tout au début, mais lorsqu'ils l'ont su, parce qu'à un moment donné j'étais vraiment, je me sentais pas bien, je venais en retard, donc je me devais de leur dire, et lorsqu'ils l'ont su en fait ils étaient super vraiment ouais non, vraiment bah, très voilà très ils m'ont beaucoup soutenue, donc du coup c'était voilà, c'était bien, donc je termine ce boulot et avec ce grand soulagement, parce qu'en fait les 3 derniers mois qui étaient mes 3 mois de préavis en fait ont été 3 mois de bah voilà, de se sentir le plus mal possible. Et je me rappelle avoir mes supérieurs qui me dire oui mais Lucia, on sait que t'es enceinte, mais quand même ce serait bien que tu donnes le plus que tu peux avant de partir. Et jusqu'à maintenant je me dis mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête pour pouvoir dire un truc comme ça, tu vois, où toi t'es vraiment pas bien, parce que voilà, ta grossesse ne se passe pas aussi bien que certaines femmes. Et je pense que eux, ils avaient l'idée vraiment de se dire que voilà, aller jusqu'au bout, parce que j'étais quelqu'un de très dynamique, mais la grossesse m'a vraiment cassé en fait, aussi simple que ça. Donc du coup, ce truc de allez Lucie, allez, dernière ligne droite, go go et tout, donne le plus que tu peux. Je suis là, ouais, mais ben, je vais essayer, mais non, quoi, voilà, il y a une assistante manager qui est là, il y a un manager, mais voilà, voilà, chacun va tirer un peu plus sur la corde, mais moi, là, je peux pas. Donc voilà, donc, j'ai quitté, du coup, très, très sereine. Voilà, tout simplement, vraiment très sereine. Et en me disant, ouais, c'est une bonne chose, j'ai besoin de repos. Et j'ai fait un passage par la France d'une semaine, même pas. Mmh. Voilà, parce que forcément, on prend toutes ces affaires de Londres. On se dit, faut bien déposer les choses dont on n'aura peut-être pas besoin chez maman. Donc, du coup, j'ai fait cette petite passerelle. Et après, je suis partie habiter directement après à Berlin.
Et alors, ton arrivée à Berlin, c'est le suivi de ta grossesse,
tout alors, ça ? L'arrivée à Berlin s'est bien passée, même si j'ai pleuré les deux premiers soirs. Il y a eu ce petit sentiment de... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vraiment, 10 ans de ma vie à Londres comme ça. Et j'ai eu ce petit moment où forcément, Jamie ne savait pas quoi faire. Mais le jour de mon arrivée, et je pense que c'était la grossesse aussi, les émotions, donc du coup, vraiment à sanglots et tout, etc. Mais ça a été deux jours et après, d'autant plus, pareil, en fait, j'avais déjà commencé à me renseigner comment se passait le suivi là-bas. Et en fait, tout de suite, parce que forcément, il y a le truc, mais je ne comprends pas l'allemand, donc du coup, c'était mon copain qui a dit
charger. Mais tu ne parlais pas du tout allemand.
Non, je ne parlais pas du tout allemand. J'avais une base d'allemand qui était vraiment le merci, au revoir, non, oui, et ça s'arrêtait là. Donc, ce qui était bien, c'est que les un an où j'allais lui rendre visite, j'ai pu constater qu'à Berlin, la plupart des gens parlaient anglais. Donc, pour moi, je me disais, c'est bon, dans la vie de tous les jours, au moins, ça ira. Mais c'est vrai que prendre rendez-vous chez les médecins, donc je lui ai demandé de le faire. Donc, moi, je voulais en plus trouver un gynécologue, soit qui parle français ou anglais. La chance qu'on a eue par le premier centre médical qu'il appelle, ils lui disent, ah bah oui, en plus, on a une gynécologue qui a commencé la semaine dernière qui est française. Bingo! Donc là, super contente et tout. Et en fait, le suivi là-bas, en fait, donc j'apprends que le suivi, c'est tous les mois, en fait. Tous les mois, il y a une visite. Donc pour moi, en Angleterre, qui était totalement toute seule, d'un seul coup, c'est waouh, génial. Donc en plus, alors quand vous êtes enceinte en Allemagne, on vous donne un Mutterpass. Donc en fait, en gros, un pass de maternité avec toutes les informations, le sang, taille, voilà. Et en fait, à chaque fois que vous y allez, ils font des tests, ils font monitoring en fait pour les battements, pour faire les battements, etc. Et en fait, vous avez ce pass tout le temps avec vous, et en fait, tous les mois, vous y allez, on surveille, j'ai même eu le droit à chaque fois à des échographies aussi, donc ça, c'était rassurant. Pour moi, une première grossesse, c'était vraiment rassurant de se dire qu'il y avait vraiment tout cet encadrement. Et après, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, donc ça c'est janvier, mars arrive et là je commence à me dire, chose des étapes, mais une des choses que j'ai faites en fait très vite, c'est trouver en fait des groupes de mamans à Berlin. Et en fait, il y en a quelques-uns, donc déjà en français, il y a Maman Berlin, ça c'est super, et il y a un autre aussi qui s'appelle Bébé Expat Berlin, donc celui-ci c'est en anglais, mais c'est que des expatriés en fait, des mamans anglaises. Donc du coup, par rapport aux messages qui sont envoyés dans le groupe, je vois par exemple une fille qui dit oh mon Dieu, je dois trouver absolument une sage-femme, je savais pas que c'était obligatoire, comment je fais? Donc forcément là, panique, je vois ça et j'en vois plusieurs en plus, donc du coup tu vois plusieurs réponses de genre ah ouais non mais moi ça a été super dur, ah non mais voilà, et là donc la panique vraiment de se dire ah ok, donc maintenant moi je pensais que c'était super, tu vois, que t'avais une gynécologue, et puis voilà. Donc mois de mars, coup de panique où là je me dis mais pareil, faut que je trouve une sage-femme, et pareil qui parle anglais ou français. Donc pareil, chez la gynécologue, je prends un petit leaflet où il y avait vraiment le nom de ils appellent ça hebammer, donc sage-femme, et je finis par en contacter une en fait qui parle aussi anglais et qui me dit qu'elle pourra s'occuper de moi. Et en fait pareil, je savais pas que ça se passait comme ça du tout, donc pareil, donc quand vous avez la sage-femme, donc là par contre elle vient toutes les deux semaines au début,
à la maison.
À la maison, en fait voilà, elle vient chez vous directement. Donc ça aussi, il y a des centres aussi de sage-femme, des centres, mais il y a beaucoup qui font ça à leur compte en fait. Donc du coup elles viennent directement chez vous.
Mais c'est des frais que tu engages, que tu payes.
Alors justement, tu peux avoir privé ou tu peux avoir également pris en compte par la sécurité sociale, la sécurité sociale allemande. Donc au début, c'est vrai que tout ça, moi, je savais pas du tout comment ça allait se passer et tout. Et ça, c'est qui était bien, c'est qu'en fait, vu qu'elle parlait anglais, donc elle m'a expliqué, pour les papiers, on va faire comme ci, comme ça. Moi, ce que j'avais fait, en fait, par mesure de précaution, quand je suis passée en France, j'avais pris, en fait, la carte de sécurité sociale européenne. D'accord. Parce que je me suis dit, le temps de faire tous les papiers en Allemagne, au niveau de santé, faut au moins que j'ai quelque chose. Et donc, du coup, sur conseil, en fait, j'ai la carte européenne. européenne. Donc elle m'a dit, voilà, c'est bon, ça marchera, c'est pas un problème et tout ça. Parce qu'il y a cette panique aussi de se dire, ah mais zut, comment je fais ? Effectivement, voilà, je prends des rendez-vous et tout, mais comment je fais à ce niveau-là ? Et c'est pas comme en Angleterre où c'est le NHS, dont du coup, le NHS, c'est-à-dire que vous avez aucun frais, vraiment aucun frais
à avancer
d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc elle m'explique tout ça, ça se passe bien, il y a un bon feeling entre elle et moi, donc ça aussi c'est une bonne chose parce que elle va quand même suivre la grossesse. Et donc du coup voilà, donc la sage-femme. Et l'autre chose aussi, pareil, où j'ai eu un petit moment de panique, c'est qu'aussi, pareil, j'apprends en fait qu'il faut choisir son hôpital à l'avance, en fait, que c'est pas, tu peux pas aller dans l'hôpital que tu veux comme ça en fait. Donc pour moi c'était un truc
pour accoucher.
Donc pareil, donc en fait. Je retourne sur le groupe Facebook et là je vois aussi pareil beaucoup de mamans qui disent ah ouais moi je conseillerais pas celui-ci, ah moi je conseillerais pas celui-là et là. Et pareil, coup de panique où je me dis mais zut, où est-ce que je vais accoucher. Et en Allemagne ils ont quelque chose qu'ils appellent maison de naissance. Donc c'est-à-dire c'est pas un hôpital, c'est pas une clinique, c'est vraiment une. Il y a que des sages-femmes en fait qui vous permettent de donner naissance, tout simplement. Et donc pareil, il y en a qui prône pour ça, et donc je me dis ouais, ça a l'air d'être pas mal et tout, donc c'est vraiment dans le voilà, dans le naturel, on vous aide, voilà, c'est vraiment le. Donc je me suis dit ça peut être sympa et tout, etc. Mais il y a quand même, avec, j'en parle avec Jimmy, il me dit non mais franchement je préfère quand même qu'on aille dans un hôpital. Et là aussi pareil, bah deuxième panique parce que je parle toujours pas allemand. Et en fait, bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'au mois de mars, j'avais pris en fait 4 semaines intensives d'allemand. Donc ça m'a aidé en fait pour la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé et à comprendre la logique de l'allemand. Parce que c'est une langue qui est logique, mais en fait, avec les cours, ça m'a permis de comprendre pourquoi les mots sont aussi longs. Mais au début, parce que je me suis dit, ok, tu vas bientôt accoucher, vaut mieux au moins que tu aies une base. Donc j'avais fait ces 4 semaines de cours intensifs et ça s'est bien passé. Mais du coup, toujours est-il que pas un allemand fluent de tous les jours. Donc j'apprends qu'il faut trouver un hôpital. Jimmy qui travaille, donc pareil aussi. Donc je mets un peu la pression parce que moi je suis là, oui, mais il faut que tu appelles. Mais pour lui, à quel moment ? Donc, les peu de fois où j'essaie d'appeler quelqu'un avec mon peu d'allemand. Ça se résout à un truc où je suis totalement frustrée parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Et donc du coup lui me dit ok bon bah, je vais contacter les hôpitaux. Et il contacte un hôpital et en fait ce qui est bien c'est que mes hôpitaux font même des soirées d'information. Et en fait la soirée d'information on y va au mois d'avril et l'accouchement était prévu de toute façon pour juin, ouais, voilà, c'est prévu début juin, donc on y va au mois d'avril, donc je me dis ok, on est dans les temps. Et ce qui est super en fait, c'est que Jimmy en fait rencontre une amie d'enfance qui est docteur et gynécologue en fait dans le service maternité de cet hôpital. Donc du coup on se dit super, on reste là, on restera là, même si toute la soirée d'information j'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'ils avaient c'était possible d'accoucher dans une baignoire, c'était possible d'accoucher, en fait ils avaient différents types d'accouchement en fait, de différentes salles d'accouchement dans un hôpital public. Donc okay. Moi je me suis dit mais c'est super, donc et surtout lui rencontrant voilà Julia cette docteur, il me dit non mais là c'est super, en plus voilà elle nous connaît. Et c'est vrai que lorsqu'on me demande jusqu'à maintenant mais comment s'est passée ton expérience, voilà, je leur dis ben en soi j'ai été bien traitée et je pense que ça a joué aussi le fait qu'on connaissait cette dame par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu une bonne expérience. Donc du coup donc trouver l'hôpital et une fois l'hôpital trouvé en fait ça a été le truc, on se dit ok bon bah c'est bon, on est prêt. Et là par contre donc je fais mon test avec la gynécologue, j'ai fait mon test de glucose, c'est ça, pour savoir en fait si j'avais assez de sucre, quoi, j'avais trop de sucre. Et ça passe très bien, sauf qu'en fait on va voir l'hôpital parce qu'en fait c'est vraiment pour faire un premier examen avant l'accouchement. Et là ils me disent mais en fait vous avez trop d'eau dans le ventre, donc faut vraiment arrêter de manger sucré, alors que je mangeais pas beaucoup sucré.
Trop de liquide amniotique.
Voilà, trop de liquide. Et donc du coup je me dis mais donc ça aussi c'était un peu dur parce que pendant toute ma grossesse je faisais vraiment attention à ce que je mangeais, et surtout en plus il y a eu cette frustration justement de pas pouvoir manger tout ce que je voulais, mais également le fait qu'en fait j'ai eu beaucoup de brûlures d'estomac. Donc du coup quand cette dame me dit, alors la pastèque, je me rappelle à ce moment c'était le seul truc que je pouvais manger sans avoir mal, et elle me dit ah non mais faut arrêter, il y a trop d'eau, manger que des pommes, alors qu'il faisait super chaud là. Donc là je me dis ok ça va être super dur. Et en plus tout ça, bon, c'est mon copain qui me le traduit parce que cette médecin ne parlait pas du tout anglais ou français, donc je me dis zut. Et tout ça pour dire en fait voilà, jusqu'à en fait lorsqu'elle fait ça elle me dit à cause de ça il se pourrait que le bébé arrive beaucoup plus tôt et que voilà que vous accoucherez mais même voilà peut-être mi-mai, fin mai. Donc la panique, parce que nous c'était au mois de juin et tout, etc. Donc une grosse panique, Vu que tout compte fait, en fait, ça s'est passé une grosse panique pour rien, vu que ça s'est passé quand même comme prévu au mois de juin. Donc voilà.
Et alors l'accouchement en allemand, parce que tu me disais que ça avait été assez particulier.
C'est particulier en fait. Non, déjà d'une part, la première chose qui était dure, c'est que, alors justement, j'ai oublié de préciser. Alors lorsque j'ai eu les examens, ils m'ont dit aussi simple que ça, parce que vous avez beaucoup de liquide amniotique. Si vous perdez les os avant l'accouchement, appelez l'ambulance directement. Et en fait, comme je disais avant ça, donc vous avez votre gynécologue que vous voyez tous les mois. Après, au mois de mai, en fait, ça s'est transformé à toutes les deux semaines et après toutes les semaines, plus la sage-femme qui venait toutes les semaines. Et en fait, ce qui s'est passé en fait pour l'accouchement, donc c'est qu'effectivement, donc les deux m'avaient prévenu, si jamais ça se passe, ben faites comme on vous a dit, d'appeler l'ambulance. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux, en fait, à chaque fois, donc on faisait le monitoring et tout, etc. Donc tout se passait bien. Et en fait, on arrive juin. Donc là, on se dit ah bon, en tout cas, on a passé la période du mois de mai qui était un peu risquée. Début juin, toujours rien. La sage-femme qui vient, rien. Je vais voir le docteur, la gynécologue, fait l'échographie, rien. Je commence à être fatiguée, je rentre. En plus, à ce moment-là, donc, on avait reçu notre lit la semaine d'avant. Je parle du lundi. Et le dimanche, en fait, mon copain avait monté justement le lit avec un ami à lui. Donc il me dit, mais tu sais quoi, vu qu'on a emménagé dans un autre appartement, il me dit, pourquoi tu irais pas directement dans l'appartement? Et en fait, sa mère y était. Donc comme ça, tu pourras te reposer dans le nouveau lit. Donc je me dis, ok, super et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive... je dis à sa maman, ouais, non, je vais me coucher directement. Et en fait, à peine je lève une jambe pour me mettre dans le lit, je perds les os. Et panique, elle me dit en allemand, parce qu'elle parle un peu en anglais-allemand, elle me dit, je vais faire quelques courses. En fait, elle me dit, je vais faire quelques courses. Et moi, je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça se passe en quelques secondes. Du coup, je l'appelle parce que je me dis, mais comment je vais faire pour appeler l'ambulance en allemand? Donc, du coup, elle me dit, oui, je suis dans la cage, ça va, je suis dans la cage d'accueil. Je lui dis, non, the water. J'essaie d'expliquer en fait que j'ai perdu les os. Et en fait, elle ne sait pas quoi faire. Et je dis, ambulance, en fait, je lui explique en anglais parce qu'elle ne comprend pas très bien l'anglais, mais je lui explique quand même, faut appeler l'ambulance, c'est ce qu'on m'a dit, faut appeler l'ambulance. Donc, elle panique, appelle l'ambulance parce que je ne pouvais pas le faire. Et elle me dit, mais ils t'ont dit de faire quoi? Et en fait, si je me rappelle, le médecin m'avait dit, voilà, si vous perdez les œufs, vous restez à quatre pattes, vous bougez pas. Donc je suis à quatre pattes avec l'eau. Elle qui me dit, mais je suis censée dire quoi à l'ambulance? Je lui dis, mais je sais pas, ils m'ont dit seulement d'appeler l'ambulance, ils m'ont seulement dit. C'est tout ce que j'arrête pas à répéter en fait. Ils m'ont seulement dit d'appeler l'ambulance, ils m'ont seulement dit d'appeler l'ambulance. Là, les messieurs qui arrivent et tout, etc., qui viennent me chercher. Et je suis dans la voiture de mec super allemand qui parle pas calmement, qui me demande mon passeport et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je suis là. Et après, il y en a un qui a réussi à dire en anglais ID. Je suis ok, super. Donc voilà. Et bon, il me parle pas plus que ça. Donc là, ça va, je suis épargnée. Je me dis. Et ils m'ont posé la question. Donc je fais. J'en explique en allemand, quoi. Avec le peu que d'allonger. Je parle pas trop bien. Parle pas trop bien allemand et tout, etc. Donc quand ils arrivent, ils disent ça à l'hôpital, à la personne qui me réceptionne. Et en fait, la chance que j'ai à ce moment-là, c'est qu'en fait, l'infirmière qui me rejoint parle un peu anglais.
Et c'était en fait, bien l'hôpital que tu avais choisi.
C'est bien l'hôpital que je choisis. En fait, moi, c'est la seule chose que j'avais dit, voilà, c'est Freddy Shine. En fait, c'était ça le nom. Donc, je lui dis, donc, ils m'ont emmené là. Et en fait, je tombe sur cette infirmière, en fait, qui parle anglais. Donc, à ce moment-là, rassurée. À ce moment-là, jusque-là, ça va. Et je me dis, bon, bah, ok, super. Forcément, ma belle-mère avait déjà contacté mon copain et tout, etc., qui lui était en route. Et il arrive et je lui dis, ben voilà, j'ai perdu les os. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas arrêté de perdre les os. Ça a duré, mais je crois, l'impression toute la demi-journée. Et je me dis, oh, super, c'est bon, bah, va arriver ce soir. Et en fait, donc non, les médecins me disent, ben de toute façon, voilà, vous avez perdu les os, il faut attendre 12 heures. Et si dans les 12 heures, il n'y a rien, là, on va déclencher. Alors, je me dis, au début, j'étais à super zen, ouais, cool, je suis sûre, elle va arriver. Là, là. Et on rigole entre nous parce qu'on se dit, oh là, tiens, c'est bizarre. En plus, on avait dit soit le 8 ou le 13, et c'est le 13. Quand on est sur le lundi 13, donc on se dit, ouais, super, allez, ça va arriver sans problème. C'est cool et tout, etc. Et en fait, du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y avait la coupe d'Europe, je crois, à ce moment-là. Donc, on nous a placés dans une salle, en fait, il y avait la télé. Donc, on se dit, oh super, on regarde le foot et tout, etc. Là, là, et on se dit, oh, ça va être super, ça va être cool, etc. Je vois au fur et à mesure, 20h, donc là, je suis arrivée à 1h, 20h, arrive, et là, je vois, en fait, ben, toujours rien, en fait. Et surtout, en fait, une sage-femme qui arrive et qui explique à mon copain que, ben, il va falloir que, voilà, qu'ils ont trouvé une chambre pour moi. Et moi, je suis là, mais une chambre pour moi, mais moi, j'ai pas, comment ça, quoi? Je veux accoucher, donc. Donc là, il me place dans une chambre. Et en fait, dans une chambre où il y a deux autres femmes. une qui a déjà accouché et l'autre en fait qui est sur le point qui va bientôt accoucher en fait, de ce que je comprends. Donc je me retrouve dans cette salle et lui forcément en tant qu'homme bah il n'ose pas rentrer. Moi je lui dis bah non mais il rentre parce que moi je comprends pas en fait, je voilà, donc il a, et donc pareil en fait tout ça se passe entre lui et l'infirmière, parce que la première infirmière sage-femme que j'avais eue parlait anglais, mais sinon toutes les autres infirmières, c'est vraiment plus des infirmières genre typiques allemandes, vraiment avec l'allemand, avec un accent de, j'aime pas dire ça, mais un accent très fort, tu sais, où t'es là, tu dis, oh mon Dieu, je comprends pas ce que vous dites. Pourtant, j'ai appris quelques mots d'allemand, mais j'ai du mal. Mais vraiment qui, en plus, elles étaient pas méchantes, mais je trouve que les Allemands sont très directs dans leur manière de parler. Donc du coup, franchement, ça, pour moi, c'était un peu trop brusque, surtout dans la, mais en même temps. Elles parlent allemand. Elles vont pas faire. Je leur disais, mais est-ce que vous parlez anglais? Nein, kein Englisch. Ok, bon. Voilà. Et,
mais donc, la femme qui avait. Pardon, je te coupe.
Oui, pardon, pas de problème.
La femme qui avait accouché était dans la même chambre que vous avec son bébé?
Alors, justement, c'est ça. Alors, elle, dans son cas, en fait, elle a eu des jumeaux et dans la mesure où ils étaient prématurés, ils n'étaient pas avec elle. Mais elle est là en train de pomper. Alors, et ça, par exemple, je n'ai pas su au début. Au début, je me dis, mais. Où sont ses bébés et tout, et je vois en fait surtout qu'en fait je voyais qu'elle pompait du lait, elle avait une machine avec elle pour pomper du lait et tout, etc. Et en fait elle me parle, je comprends pas ce qu'elle me dit, donc je crois que c'est en fait à un moment donné j'ai dit à Jimmy, non, faut que tu viennes avec moi dans la chambre parce que franchement la communication je ne peux pas, et surtout j'avais pas la, même si j'avais appris l'allemand il y a quelques mois, mais j'avais pas l'envie et l'énergie en fait, parce que comme je dis, quand on parlait une autre langue, surtout quand au début, après l'anglais par exemple, je peux le parler couramment, mais d'apprendre l'allemand, ça reste quoi, de parler une nouvelle langue, ça reste ça te prend de l'énergie. Donc du coup, je suis assez, j'étais un peu un peu non, je comprends pas du tout. Et en fait, elle a expliqué voilà qu'elle a donné naissance, mes enfants sont trop petits, donc ils sont en couveuse et elle peut pas être et tout, etc. L'autre fille en fait qui est après qui est là, elle qui dit qui explique à mon mari qu'en fait qu'elle est là pour mon mari, mon copain, qu'elle est là pour en fait pour son deuxième enfant, mais elle lui dit ah, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour elle et tout. Donc il me traduit tout ça et je lui dis ah cool et tout, super. Donc je me dis ok, bon bah il y a plus que moi. Et en fait elle attend son accouchement, et en fait moi je veux pas rester dans la chambre parce que là je me retrouve dans une chambre avec deux autres personnes avec qui je peux pas vraiment échanger parce à cause de la langue. Donc mon copain me dit bah on va sortir et tout. Donc on sort, on est un peu dans les couloirs, on nous emmène dans une autre salle parce que voilà, le temps passe, et on arrive vers minuit, 1h du matin, toujours pas d'accouchement. Et là ils me disent ben il va falloir qu'on comment vous voulez qu'on le déclenche. Alors il me propose, c'est soit la pommade je crois, ou soit une espèce de ou un cachet ou un truc qui te mette
voilà, un tampon.
Ouais, exactement, un espèce comme un cachet en fait qui te mette et qui déclenche. Donc pareil, en fait, c'est-à-dire que dans tout, par exemple, ça, même si avec ma sage-femme, on avait beaucoup discuté, on avait vraiment parlé de l'accouchement, mais en fait, ce cas de figure-là, on l'avait pas planifié, en fait, tout simplement. Donc, savoir que choisir, que ce soit mon copain, comment, on est là en train de se dire, je sais pas et tout. Donc, je lui dis, l'espèce de cachet et tout, etc. Donc, elle me le donne. Et là, elle dit, mon copain, va falloir que vous partiez. Et là, je lui dis, mais comment ça et tout? Faut qu'il reste avec moi et tout. Non, c'est pas possible. Et en fait, je lui dis ça à lui. Je lui dis, mais faut que tu restes avec moi. Dis-lui que tu peux pas partir et tout. Et il me dit, mais non, en fait, elle me dit que j'ai pas le droit. Vu que je suis, non, mais tout, c'est pas possible. Je lui dis, mais non, mais c'est, voilà, quoi, je veux pas être toute seule et tout. Donc, pas le choix. Je retourne dans la chambre, toute seule. Et la femme, effectivement, n'était plus là. Et dans la chambre, et en fait, 4h du matin, impossible de dormir, des contractions de malade. Impossible d'expliquer ça à l'infirmière. En fait, j'ai beau lui dire que j'ai mal, mais en fait, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas. C'est ça, c'est tout ce qu'elle me dit. Donc moi, j'en peux plus. En fait, en plus, les deux autres femmes qui essaient de dormir, et moi, je suis là, je veux pas les déranger, donc t'es en train de chien, mais en silence. Et en fait, c'est vraiment le côté où j'ai pas pu m'exprimer, en fait. C'est-à-dire que tu veux pas geindre et limite en train d'être là, oh, j'ai mal. Mais en même temps, tu dis, mais personne va te comprendre, tu vois. Il y a qu'une à un moment donné, je pense que je devais avoir l'air tellement mal qu'elle m'a demandé, mais est-ce que ça va? Et j'ai là, et j'essaie d'expliquer, tu sais, t'as pas les mots. Et je voulais expliquer, mais j'ai très très mal, faut faire quelque chose et tout. Et là, j'arrête pas d'appuyer. En fait, 6h du matin arrive et là, j'arrête pas d'appuyer sur le truc et tout. Et j'explique à l'infirmière, j'ai mal, j'ai vraiment très très mal en fait. Mais vraiment, c'était une douleur.
Mais elle vérifie ton col.
Mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis allée dans la chambre, personne n'est venu. Donc en fait, c'est vraiment quand à 6h du matin, vraiment, parce que j'en pouvais plus, et là j'ai dit, il faut faire quelque chose. Là, ils m'ont dit, bon bah ok, venez, et là on m'a mis dans une autre parcelle, là où il y a les accouchements et tout, etc. Et vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et le comble en fait pour moi, c'est que je vois une des filles, une autre fille en fait que j'avais vue arriver la veille à l'hôpital, et je la vois dans la chaise roulante avec son bébé. Et là pour moi c'est, en fait ça c'était la massue. Je me suis dit oh mon Dieu, j'en peux plus. Et Jamie avait le droit de revenir seulement à partir de 7h du matin. Donc lui c'est, non mais c'est, en fait donc c'est ça, c'est ça vraiment, c'est
des durs. Donc si t'avais accouché entre temps, il aurait pas pu.
Il aurait pas pu être là. Et c'est ça aussi qui était, mais vraiment quand je te dis, c'est, tu sais, sur le coup, qu'on se dise, Charlotte est arrivée, tu dis, ok, moi c'est super, j'ai mon bébé. Mais tu sais, quand tu réfléchis avec, tu dis, mais en fait, c'était super dur, en fait. Et c'est ça, je réalisais, je me suis dit, mais en fait, ouais, il aurait, comme tu dis, elle serait arrivée entre temps, il aurait pas été là. Lui, en fait, donc du coup, 7h du matin, pas prendre, il était là. Heureusement, j'avais pas encore accouché, j'étais toujours en souffrance, et pareil, je lui explique, écoute, voilà, quoi, faut vraiment faire quelque chose et tout, etc. Là, à ce moment-là, seulement, j'ai une fille qui vient pour voir, est-ce que justement, bah, comment je vais, mon col et tout, etc. Et par chance, en fait, elle est française, et mais c'est pas elle, en fait, qui s'occupe de moi. Elle me dit, voilà, en fait, on m'a seulement demandé de faire ça, mais moi, j'ai bientôt fini et tout, donc là, je suis là, oh, je voulais pas faire des heures sup. Parce que voilà, quoi, elle parle français, quelqu'un à qui je peux vraiment exprimer tout, et elle me dit mais vous inquiétez pas, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout, etc. Je lui dis mais là j'ai vraiment mal, et en fait je demande à mon copain de me masser le bas du dos, c'est la seule chose qui me soulageait, mais en fait à un moment donné forcément il ne massait pas aussi bien, et en fait il me dit, il me voit en douleur et il me dit mais est-ce que t'es sûr que je vais pas prendre prendre un antidouleur, quoi, prendre en fait la péridurale ou quoi que ce soit. Et autant pendant toute la grossesse, je me disais, ouais, non, je vais accoucher naturellement, voilà, pas de péridurale, pas de ceci, cela, voilà, enfin, autant là, je lui dis, oui, s'il te plaît, appelle le médecin. Là, j'ai même pas, je réfléchis ni deux ni trois, j'avais tellement mal qu'il me fallait, voilà, fallait être soulagée le plus rapidement possible. Et en fait, pareil, bah, faut, dans ce cas-là, il faut remplir des papiers, tous en allemand, donc. C'est lui qui doit lire, regarder vite fait. Et en fait, bon, après, à un moment donné, on se dit, de toute façon, bon, ça doit être les papiers pour tout le monde pareil, voilà, pour la péridurale, les risques et tout, etc. Et voilà, donc j'arrive à signer quand même. Voilà, quoi, lui traduit ce qu'il peut traduire et tout, etc. Mais c'est vrai que c'était, voilà, c'est, tu le fais parce que t'es dans la souffrance, tu dis, ok, faut que je fasse quoi qu'il en soit. Et en fait, donc le docteur qui arrive, en fait, pour me mettre la péridurale, en fait, elles sont deux. Elle met la péridurale et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon rythme cardiaque commence à chuter et celui du bébé aussi. Et en fait, je vois des médecins rentrer, je vois des infirmières rentrer et en fait, le truc, je comprends rien. En fait, tous ces trucs qui sont en train de parler, tout, etc. Et en fait, je vois mon copain qui est en panique et lui qui m'explique, qui me dit non mais je crois que voilà, ton rythme cardiaque a chuté, celui du bébé aussi, donc ils vont essayer de faire voilà, ce qu'ils peuvent. Et en fait, il y a une des dames qui parle anglais qui me dit on va voir ce qu'on peut faire, mais est-ce que vous, si on vous fait une césarienne, est-ce que ça vous va? Et donc et en fait à ce stade, je dis faites ce que vous avez à faire. Je dis faites ce que vous avez à faire. Et je sais pas comment ils ont fait parce que moi j'étais un peu en même temps un peu dans les vapes, mais tout repart et en fait ils décident de me remettre dans une salle pour vraiment surveiller en fait mon rythme cardiaque et celui du bébé en même temps. Et ça dure en fait ben, toute l'après-midi. Donc comme je dis, on parle, hein, je suis arrivée à l'hôpital le lundi à 13h, là on est le mardi suivant.
4 heures plus tard,
donc toujours à l'hôpital, cette fois-ci avec la péridurale, dans cette salle où ben dans cette salle d'accouchement en fait, pour au cas où ça arrive. Et en fait, c'est seulement vers 19h qu'il y a la sage-femme, la première que j'avais rencontrée quand je suis arrivée à l'hôpital, qui reprend du service et qui parle anglais. Donc, il a me dit, ah ben voilà, on surveille le col. Et elle me dit, ben voilà, je pense qu'on va bientôt commencer et tout, etc. Donc, là, il voit que les battements, le rythme cardiaque de Charlotte se passe bien, le mien se passe bien. Donc, elle me dit, ok, bon, ben, on va commencer. Et en fait, elle, faut qu'elle parte. Donc voilà, et là, c'est les médecins qui... Et ça, c'est vraiment le truc qui est dur, en fait. C'est vraiment d'avoir ce côté où, voilà, t'as une personne que tu dis, super, au moins, avec elle, je pourrais communiquer. Et en fait, maintenant, elle doit partir. Donc, tu te retrouves avec d'autres personnes avec qui tu peux pas communiquer. Et franchement, ça a été fatigant, en fait. Même si, voilà, mon copain traduisait tout ce qu'il pouvait traduire, forcément. Voilà, mais c'est vrai que c'était très... Voilà, t'es déjà dans une situation... pas de faiblesse, mais où tu te sens pas bien. Et en fait, de pas pouvoir en plus comprendre ce qu'on te dit, de pas pouvoir même toi t'exprimer, de pouvoir dire exactement même ton niveau de douleur, de pouvoir exprimer exactement qu'est-ce que tu ressens. Ça, c'était vraiment frustrant. Et c'est vrai que même si j'avais pris des cours d'allemand pour m'aider justement pour mon accouchement, pouvoir m'aider, voilà, avec voilà, la naissance, mais... en fait, tu te rends compte que ben non, ça t'aide un minimum, mais pas le côté médical, tu vois. Donc du coup, c'était super dur. Et après, ben voilà, les médecins arrivent et décident voilà, vraiment d'y aller. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'accouchement en soi, C'est plus mon copain qui a des souvenirs parce que pour il était à côté et où il m'a dit mais tu sais qu'il y a une dame qui t'a carrément appuyé sur le ventre. Je lui dis ah bon? Il me dit ah si il me dit franchement il me dit moi c'est ce qui m'a choqué. Il me dit jusqu'à maintenant j'ai cette image de cette dame qui t'appuie sur le ventre. Et en fait moi je pense que j'étais tellement on me dit de pousser, j'avais fermé mes yeux. Donc j'étais vraiment dans le vraiment tu sais où et ouais. Comme je dis jusqu'au moment où Charlotte est arrivée, j'avais l'impression d'être dans un autre monde et c'est comme ça que j'ai vécu, vraiment d'être dans un autre monde jusqu'à ce moment-là où on me dit elle est là, je l'entends pleurer et on me la donne directement. Mais avant ça voilà, donc quand lui me raconte ça, je suis là ah oui vraiment tu vois, il me dit mais tu te rends pas compte, c'était dingue et tout etc. Et après voilà quoi, elle est là et là à ce moment, donc ce qui est bien par contre, ce que je dois dire en Allemagne qui était super, c'est que direct ils me disent mettez-la sur votre, donnez-lui le sein directement. Donc pareil, je comprends pas trop, c'est mon copain qui me traduit ça, donc je la mets directement sur moi à côté et tout pour lui donner le sein et tout etc. Ils apprennent rapidement pour la changer, on me ramène dans la chambre et pareil on dit à Jamie il faut qu'il parte. Et ça aussi c'était, j'ai accouché à 21h et en fait le temps de sortir de la salle d'accouchement il était minuit. Alors comme je disais, j'ai pas dormi, en fait j'ai pas dormi depuis la nuit du dimanche au lundi, déjà j'avais du mal à dormir. Donc du coup je vais dans la chambre toute seule avec ses filles, mais toute seule avec Charlotte, Jamie qui doit partir parce que l'infirmière dit bah non vous pouvez pas rester. Donc ça vraiment super dur parce que je me dis ok bon mais qu'est-ce que je fais. Et ce qu'il y a c'est que bon, Charlotte dès le début comme je dis toujours elle avait de la voix, donc ça c'était super dur. En fait l'avantage, la seule chose qui était bien, c'est que c'était déjà prévu que ma mère arrive le 15. Quand je dis 15, donc c'est-à-dire, j'ai perdu les os le lundi, donc c'est prévu qu'elle arrive le mercredi. Mais ça, c'était prévu à l'avance parce qu'on s'était dit, faudrait pas qu'elle vienne trop tôt et que, en fait, j'accouche pas et qu'elle reparte sans que j'ai accouché. Et en même temps, on s'était dit, ouais, voilà, bah, peut-être dans ce cas, vaut mieux prévoir après. Et vu que les dates, en fait, ça changeait d'un moment à un autre, je lui ai dit, écoute, le mieux, c'est que tu viennes, voilà, mi-juin. Comme ça, au moins, elle sera là, quoi qu'il en soit. Et en fait, c'est simple, j'accouche la veille, ma mère arrive le lendemain matin avec mon frère. Et c'est ma belle-mère qui les emmène à l'hôpital, donc, dès 9h du matin. Donc c'était des trucs où tu dis, ok super, là ça fait du bien, elle est là et tout etc, donc ils sont restés avec moi et tout etc, donc ça a été bien. Et en même temps ils sont là, bon, quand est-ce que tu sors?
Oui,
donc,
combien de temps tu es restée?
Voilà, non, tout fait, je suis restée, alors je suis arrivée le lundi et on est reparti le dimanche. Ah oui. Et en fait la seule raison c'est parce qu'elle a attrapé la jaunisse, c'est ça? Ouais, c'est la jaunisse, et donc du coup j'ai dû rester plus longtemps. Et en fait ça a été à chaque fois reporté. Non, mais ce sera... Ah non, mais c'est bon, on verra ce soir, ça devrait aller. Vendredi matin, ouais, je pense qu'on pourrait sortir vendredi matin. Vendredi matin, ah non, mais peut-être c'est l'après-midi. Et en fait, tout ça, c'est mon copain à chaque fois quand il vient qui me dit, en fait, qui me traduit tout ça. Donc du coup, je suis super, j'en peux plus. Et je lui dis, mais dis-leur, quoi, exactement. Faut qu'il te donne une date, faut qu'il te dise ceci, faut qu'il te dise cela. Et forcément, je veux dire que pendant toute la période de la grossesse, il a eu ce stress de devoir tout me traduire, tout s'occuper, tous les papiers, la déclarer. C'est vraiment, et c'est vrai qu'autant au début pour moi c'était normal, mais c'est vrai qu'il y a une fois, quelques mois après que Charlotte soit née, où on a eu vraiment un gros clash, et il me dit, mais tu te rends pas compte de la pression que j'ai depuis que t'es ici, en fait, de la pression que j'ai sur moi, en fait. Et c'est vrai qu'après j'ai réalisé, je me suis dit, mais effectivement, en fait, c'est pas comme toutes mes copines ou comme toutes les femmes où t'es dans ton pays, dans ta langue, où tu t'occupes de tout. Donc, c'est-à-dire, ton copain, il peut aller travailler ou ne pas être là et tu vois ce que je veux dire? Toi, tu peux t'occuper, tu peux aller toi-même contacter ta sage-femme, tu peux toi-même aller faire la démarche des papiers, tu peux aller toi-même, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, non.
T'étais dépendante.
Dépendante. Et en fait, c'est-à-dire que autant pour moi, je me voyais entre guillemets comme victime de, je suis dépendante, je parle pas, je peux pas et tout. Mais en même temps, pour lui aussi, c'était dur parce que lui devait s'occuper de son boulot qui était très dur également. Et en même temps, s'occuper en fait de sa femme et en même temps de cette petite fille aussi qui vient d'arriver. Donc du coup, il y a eu ça qui était, je m'en suis rendu compte, je pense, un an plus tard, hein, vraiment, où en fait le poids que ça avait mis sur lui et le stress que ça avait occasionné. Mais ça, que du coup, ça a fait une bonne semaine à l'hôpital. Et je pense que ça, pour moi, ça a été super dur. Vraiment, comme je dis, c'est parce que même le temps où ma mère était là, en fait, j'ai pas pu profiter avec elle vu que j'étais à l'hôpital. Et en fait, quand je suis sortie de l'hôpital le dimanche, ma mère, elle, repartait dans 2 ou 3 jours après. Et en fait, je me rappellerai toujours parce qu'elle était venue avec mon frère, et je me rappellerai toujours le jour où ils sont partis. J'étais en larmes, en fait. J'étais en larmes et tout, etc. Et
parce en que fait, toute seule, tu connaissais personne.
Je connaissais personne, en fait. La seule personne, je me rappelle, je m'étais fait une copine. C'est parce que justement, grâce au groupe de maman, le groupe anglo-saxon de maman, en fait, j'avais acheté un truc dans ses mains. Comment ça s'appelle? Pas une gigoteuse, mais un truc pour envelopper le bébé qui n'a jamais, bon, j'ai jamais utilisé, mais bon, bref. Et en fait, on s'est rencontrés. Elle, sa fille venait, elle avait 6 semaines, je crois. Ouais, elle avait 6 semaines et elle m'a dit, mais si, et elle est de la Suède et elle m'a dit, mais si tu veux, on peut rester en contact. Voilà, on a nos filles qui auront en tout cas quelques semaines, quoi, quelques semaines de différence. Et en fait, c'est la seule, en fait, et une voisine que j'avais, mais qui n'avait pas d'enfant. Donc, du coup, pour moi, c'est voilà, même si je viens de rencontrer ces personnes-là, donc il n'y a aucun attachement, tu vois, de te dire, voilà, vraiment des amis proches, etc. Donc, elles partent. Ma mère part avec mon frère. J'ai mis, donc, on sort le dimanche, le lundi, retourne travailler.
Il n'y a pas de
C'est ça, le truc. Il y a des congés paternité. Donc, ils appellent ça Elternzeit. Et en fait, il y a le congé de paternité qui dure, je crois que c'est jusqu'à un mois, facile. Un mois, même plus, en fonction de ton employeur. Mais lui, vu qu'il avait commencé, en fait, un nouveau boulot depuis janvier, il avait peur, en fait, de prendre ce congé de paternité. Et moi, je l'en voulais, mais en même temps, je comprenais. Je comprends, ok, t'es depuis 6 mois dans ta boîte, mais en même temps, il y avait ce truc de... Et quand il m'a dit ça, que toute la semaine, en fait, où j'étais à l'hôpital, il était avec moi. Donc, en fait, ses employeurs lui ont dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, lui, il ne se voyait pas, en fait, déjà qu'il avait eu toute cette semaine sans qu'on lui fasse, qu'on lui pose quel problème que ce soit. Donc, il ne voulait pas prendre son congé de paternité, en fait, tout de suite. Donc, je me rappelle toujours le lundi, en fait, me retrouve, carrément, étant seule, en fait. Et je me rappelle toujours d'avoir Charlotte. Et je me dis, oh, j'ai envie d'aller prendre une douche. Et je me dis, mais comment je fais? Il n'est pas là. Ma mère et mon frère n'étaient pas là. Et il y avait ma belle-mère aussi qui, elle, n'était pas là sur ce moment-là. Et c'est vrai que sur le coup, tu te dis, bon, ok, vivement qu'il rentre du boulot. Mais même ça, en fait, lui, il rentre du boulot, il est fatigué. Et en fait, ouais, c'est comme je dis, autant, voilà, quand ma fille est née, c'est clair, c'était un bonheur. Ça, je pourrais pas le rejeter, mais... Tout l'été qui a suivi a été super dur. Vraiment, quand je dis dur, psychologiquement. Psychologiquement, je me sentais vraiment seule. Ce qui est bien, par contre, dans tout ça, c'est que tu as la sage-femme. Enfin, c'est la sage-femme, en fait, que j'ai eue, en fait, au mois d'avril, mai. En fait, elle te suit également une fois que le bébé est là. En fait, elle vient tous les jours. Les premiers 15 jours, elle vient tous les jours. Et après, elle vient une fois par semaine. Donc, c'est la seule personne en fait à qui je me raccrochais, en fait. Donc dès que je suis sortie de l'hôpital, donc mon copain lui a envoyé un message pour dire voilà, on est sorti et tout. Donc elle est venue dès le lundi, mais c'est tout, voilà, elle vient, ça dure allez une demi-heure maximum, tu vois, elle regarde le bébé, elle te regarde toi, et puis voilà quoi, après c'est ça. Et donc autant je trouve que c'est super d'avoir une sage-femme qui vient tous les jours, ça je trouve que c'est vraiment super et ça aide, mais le nombre de fois où elle partait, où j'étais en larmes. Et elle pouvait pas faire grand chose, tu vois. Le truc qu'elle me disait, c'est c'est normal.
C'est le baby blues.
Voilà, c'est le baby blues. Mais faut vous reposer. Et ça aussi, ça a été très, parce que même mes copines, celles qui ont eu des enfants avant, pas celles qui ont eu en même temps, mais celles qui ont eu des enfants avant, quand je les appelais, je leur disais, je suis pas bien, je me sens pas bien. Elles me disaient, non, mais c'est normal, c'est le manque de fatigue. Et moi, je ressentais.
Tes copines françaises?
Mes copines, anglaises. Mais même mes copines françaises, et c'est ça aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je suis partie vivre à Londres, toutes mes copines ont eu des enfants vers cette période-là. Donc, début de la vingtaine, elles ont toutes eu des enfants. Donc, à ce moment-là, forcément, quand j'ai accouché à 3 ans, la plupart des enfants étaient déjà des ados. Donc, il n'y avait pas quelque chose à quelqu'un à qui se raccrocher directement. La bonne chose, c'est que j'avais une copine anglaise qui, elle, était à ce moment-là, avait eu donc sa deuxième fille qui avait, je crois, 1 an et demi d'écart. Donc, du coup, c'était la seule personne avec qui je me sentais, où je pouvais parler, en fait. Mais malgré tout, elle me disait non, mais en plus, et ça, c'est le côté aussi anglais, tu sais, où tout est positif, don't worry, everything is fine. Et donc, du coup, elle me disait non, mais t'inquiète, c'est le manque de sommeil, mais t'inquiète, ça ira. Et je me sentais vraiment pas bien. Jimmy, lui, le voyait, mais il savait pas quoi faire, tout simplement, il savait pas quoi faire. Et en fait, le truc qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'en fait, il devait partir pour le travail pendant tout un week-end et il m'a dit, je peux pas te laisser toute seule. Et
moi, c'était au bout de combien de temps?
Ça faisait un mois. Elle allait sur ses 1 mois et il me dit, écoute, tu sais quoi, appelle ta maman, appelle tes copines, demande qui est-ce qui peut venir ce week-end. Et moi, sur le coup, je suis là, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Et tout, il me dit, non, tu ne resteras pas toute seule. Du coup, ça se fait, ma mère vient le vendredi et heureusement, et elle repart le lundi. Et en fait, pareil, elle part et je suis en pleurs, mais... Et là, Jimmy, en fait, il sait plus quoi faire parce qu'en fait, lui, il revient. Et en fait, mais je pleure, mais pas, en fait, à pas pouvoir m'arrêter, en fait. J'arrive pas à m'arrêter et tout, etc. J'arrive pas, genre, je pleure. Et c'est la sensation, c'est bizarre, mais j'avais cette sensation d'être la plus malheureuse au monde. Mais en même temps, en comprenant pas, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, moi, pendant toute cette période dont je te parle, pour moi, je ne fais pas le baby blues. C'est ça le truc. Pour moi, je ne fais pas le bébé du pouce. Pour moi, c'est juste que voilà, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui va pas, mais j'en peux plus. Et Charlotte faisait pas ses nuits, je l'allaitais aussi. Mais c'est en fait, je me rappelle toujours un jour où Jamie part travailler et pareil, il part travailler et je suis en pleurs. Et lui, vraiment, s'inquiète de plus en plus en fait. Et je tombe, je sais même plus comment ça s'est passé. Je tombe sur un article en fait sur le téléphone, sur mon téléphone, sur internet, qui parle en fait d'une fille qui. C'est simple. En fait, la phrase qu'elle dit, c'est j'avais tout pour être heureuse. Et malgré tout, je me sentais la plus malheureuse au monde. Et en fait, elle parle, voilà. Et là, c'est là que je réalise, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce dont je ressens. Et je réalise effectivement, en fait, que bah, j'ai un baby blues, en fait, que je suis vraiment en train de faire une crise. Et ce qui est marrant, c'est que j'en avais même parlé à mon copain quand j'étais enceinte. Je lui ai dit, ouais, apparemment, il y a un truc qui s'appelle baby blues et tout. Je te dis au cas où. Mais je pense que je lui en ai parlé vraiment en me disant, ouais, mais bon, t'inquiète, je suis tellement super positif et tout, etc. Ça m'arrivera pas. Et en fait, non, ça m'est arrivé. Et franchement, j'ai pu mettre une étiquette dessus quand j'ai vu cet article. Et lui m'a confié plus tard qu'en fait, il s'était même dit, mais en fait, tu me fais voir un thérapeute ou quelqu'un. Parce qu'il a eu, très très peur en fait. Et
combien de temps?
Ça a duré, on va dire, jusqu'à mi-août. Ouais, donc bien. 2 mois, ouais, on va dire bien 2 mois où, ben, et en fait, comme je disais, c'est aussi ce qui a contribué à ça, c'est comme je dis, pendant ces 2 mois, personne. Heureusement, en fait, ma mère, elle est venue ce week-end-là, donc ça, c'était génial. Et je pense que c'est pour ça, quand elle est partie, j'avais vraiment, ben, j'ai pleuré énormément, parce qu'effectivement, il y a ce côté où tu te rends compte, ben, je vais être encore seule à nouveau. Et ma mère, effectivement, quand elle était là ce week-end, le week-end où elle a été là, elle a fait à manger, elle m'a dit, mais écoute, c'est quoi, va faire. J'avais pas fait de shampoing depuis que j'avais quitté l'hôpital. C'est pour te dire qu'à tel point, j'avais pas de temps pour moi. Et là, elle me dit, mais écoute, c'est quoi, c'est bon, je m'occupe de Charlotte, va, prends ton temps, fais ceci, cela. Et en fait, il y a ça aussi, même si mon copain a été super. Il a été. Voilà, il m'a soutenue, mais il n'était pas. Et ça, c'était l'autre chose aussi qui a été dure. Il n'était pas. Je m'attendais à un papa super. C'est bon, je sais faire et tout, etc. Et autant lui, il n'arrêtait pas de me dire, oh mon Dieu, mais on dirait que t'as fait ça toute ta vie, t'es super à l'aise, t'es super. Et autant lui, c'était pas le cas. Et en fait, c'est un truc qui m'a, au début, qui m'a beaucoup agacée, en fait, beaucoup, vraiment agacée. Même si plus tard, on en a discuté, je l'ai compris, je me suis dit effectivement, en fait, moi, je refusais la phrase de « Ouais, mais bon, t'as l'instinct maternel. » Je refusais cette phrase parce que je me disais « Mais non, j'ai pas l'instinct maternel, j'ai pas le choix. » C'est simple. Donc, voilà. Donc, quand il me disait ça, oh, pour moi, c'était « Mais voilà, quoi. Non, je n'ai pas le choix, donc je dois apprendre. Je dois apprendre. Si elle pleure, je dois trouver qu'est-ce qui lui convient. Si elle fait ça, je dois trouver. Tous les jours, c'est mon quotidien de trouver ce qui va, ce qui va pas. » Donc, du coup, d'avoir ma mère qui, elle, à ce moment-là, pendant ces 3 jours... pendant 3-4 jours qui est là, qui m'aide et tout, etc. C'est un soulagement total. Et en fait, une fois qu'elle part, je sais que voilà, je vais me retrouver avec mon copain, même si je l'aime, mais il sera pas d'une aide, d'une super aide, tu vois. Donc, je crois que c'est fin août, du coup, j'ai une de mes tantes qui vient me rendre visite. Et là aussi, ça m'a soulagée. Et en fait, avec ma tante, en fait, bon, c'était déjà prévu que j'aille en France en septembre pour présenter la petite à tout le monde. Et en fait, là, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien le fait qu'elle était là. En fait, dire que ma tante soit là, ça c'était une bonne chose. Et après, en fait, on est retourné en France en même temps. Puis elle m'avait dit, écoute, ce que je vais faire, je prendrai un billet en même temps que toi, comme ça tu ne voyageras pas toute seule. Mmh. Et en fait, Jamie, lui, il nous a rejoint seulement à la fin du voyage. Et en fait, c'est au mois de. C'est vrai que j'ai l'impression, quand j'en parle, je me dis, c'est au mois de septembre que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer la maternité. Mais c'est parce que voilà, j'étais en France, je suis partie en Angleterre pour forcément pouvoir voir mes amis, j'avais toute ma famille, toutes mes amies, tout le monde est venu voir Charlotte, donc c'était super. Mais il y avait ce côté de ah bon, tu l'allaites ? Et c'est ça le truc, donc on en reparlera, mais c'est vrai que c'est le truc où autant t'es contente parce que t'as tout cet entourage. Mais après vient le choc culturel. Donc voilà. Donc effectivement, donc en fait tout ça pour dire que du coup, effectivement, d'avoir après ce voyage en France, je me suis enfin. Ouais, je me suis retrouvée. En fait, je me suis retrouvée, même si, en fait, même voilà, avec Jamie, on est reparti à Berlin ensemble. Mais je dois dire qu'en fait, c'est vraiment à fin septembre que j'ai commencé à me sentir vraiment bien, à me balader. Ouais, je me baladais avec Charlotte, mais vraiment à se balader, mais vraiment me sentir à l'aise, vraiment me sentir bien dans ce nouveau rôle de maman, dans ce me sentir bien dans ma tête aussi. Je pense que voilà, effectivement, comme je dis, c'est que les premiers, déjà d'avoir un enfant, c'est pas simple. Mais il n'y a pas de conditions parfaites. On les a dans nos têtes, mais en fait, la réalité est toujours différente. Et même si moi, je m'étais dit, oh ouais, non, ça ira bien, je ne vais pas faire de baby blues, je vais faire un accouchement naturel, je vais faire ceci, je vais faire cela, on va se marier avant que Charlotte arrive, tous ces trucs-là, les choses arrivent différemment. Et en fait, je pense que indirectement, j'ai eu du mal à gérer ça, en fait.
Comment t'as envisagé le mode de garde pour Charlotte ?
Alors, en fait, c'est ça le truc. C'est que pour moi, en fait, quand j'ai accouché... Donc déjà, avant, comme je disais, en étant sur des réseaux de maman, donc j'ai appris effectivement que le congé parental, c'est un an. Et j'apprends effectivement que, bon, là, je me renseigne sur le système de garde, mais je vois beaucoup de mamans qui postent « Oh là là, j'arrive pas à avoir une place à la Kita, mais comment faire pour avoir ceci, pour avoir ça, pour avoir ça, pour aller à la Kita ?» Et je me dis... Ah zut, mais ça aussi c'est quelque chose dont faut se renseigner. Et en fait j'avais une autre copine en France qui elle avait déjà inscrit sa fille pendant qu'elle était enceinte à la crèche. Donc du coup je réalise, je me dis mais effectivement en fait comment ça fonctionne. Donc j'apprends qu'il y a ce système de, en fait il n'y a pas vraiment de nourrice, qu'il y a ce système de Kita en fait qu'ils appellent, donc c'est Kindergarten, le gros jardin d'enfants. C'est pas une crèche, c'est pas une maternelle, mais en fait ça regroupe les deux ensemble. Et donc je me suis dit alors attends, parce que dans ma tête effectivement je m'étais toujours dit ouais le premier enfant, je veux pouvoir passer du temps avec, je veux pouvoir au moins voilà quoi avoir profiter de cette première expérience, mais effectivement toujours en me disant bon bah quand même il y aura une fin à ceci. Donc quand je commence à me renseigner, j'apprends que voilà ben, la kindergarten c'est seulement à partir de 12 mois. Après beaucoup de femmes en fait parlent de ben justement ouais ils n'arrivent pas à trouver de nourrice, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas ici. Et en fait t'apprends qu'en fait ce qu'ils appellent Tagesmutter, donc en gros la mère de jour, la traduction c'est ça, mère de jour, les nourrices, en fait il y en a, ben c'est pas aussi développé qu'en France ou même en Angleterre, c'est notre histoire, mais ne serait-ce qu'en France, voilà, pour moi, je sais que j'ai été chez la nourrice, mon frère aussi, la plupart des gens que je connais, voilà, tu t'emmènes ton enfant chez la nourrice si tu n'as pas de place en crèche, et vice-versa, c'est soit la crèche, la nourrice. Donc là, d'apprendre qu'en fait, ah ben non, ça se fait pas au bout d'un mois, et ça, c'est assez comique aussi, parce que c'est là, à ce moment-là, que je vois qu'en fait, qu'il y a vraiment une culture qui est totalement différente, et en fait, en allemand, ils ont même un terme, en fait, pour les mamans, française, parce que c'est vrai qu'en France, non, dans l'enfant, tu retournes travailler à 4 mois, généralement, et ils appellent ça le terme mère corbeau. C'est pour dire à quel point ce n'est pas dans leur mentalité après quelques mois, de placer son enfant. Donc, du coup, moi, je me dis, mais moi, je vais faire comment dans ces cas-là? Et effectivement, en échangeant après, bon, tu rencontres d'autres mamans et après, par le groupe, tu poses des questions. Donc, beaucoup te disent, ah ben non, tout, c'est pas vraiment, voilà, c'est dur d'en trouver ou soit ça coûte très cher. Après, effectivement, il n'y avait pas cette pression parce que pour le moment, j'étais là, je me sais pas comme si j'allais trouver un boulot du jour au lendemain. Donc, ça a été une bonne chose. Mais du coup, c'était ok, mais quand même, faut quand même qu'on s'inscrive, quoi, quelque part. Donc, c'est là qu'on a commencé. Je crois que Charlotte avait 8 mois quand on s'est inscrit on a fait une demande, pardon, on s'est mis sur liste d'attente pour une Kita, donc un jardin d'enfants franco-allemand, tant qu'à faire, parce qu'en plus, c'était. Au coin de chez nous, et on s'est dit parfait quoi, au coin de chez nous en plus franco-allemand, super. Et donc du coup lorsqu'on les a rencontrés, Charlotte avait 10 mois et à ce moment-là ils nous ont dit ouais que voilà que... parce que moi je m'étais dit bon au pire des cas attends elle va avoir un an au mois de juin, bon au moins septembre ou plus tard ce serait bien que voilà qu'elle commence quelque chose et de sorte que moi je puisse me libérer. Et en fait lorsqu'on l'a rencontrée, faut savoir que les places de Kita c'est très très dur. En fait l'Allemagne ces dernières années a subi un gros baby boom et en fait du coup c'est très très dur en fait d'avoir une place en Kita. Donc généralement la plupart du temps les gens font leurs demandes avant d'accoucher, même oui. comme dans les crèches, hein. C'est payant. Alors après pareil, il y a une partie qui est prise en charge par ils appellent ça la mairie de la jeunesse. Et après, voilà, mais nous, on paye une contribution. D'autant plus que c'est franco-allemand, donc forcément, c'est privé. Donc, du coup, tout ça pour dire, en fait, on fait la demande. Et en fait, donc c'est une Kita à initiative parentale. Donc, c'est les parents, en fait, qui dirigent la Kita. Donc, les mamans qu'on rencontre ce jour-là, qui font la journée d'information, en fait, nous expliquent elles nous prennent à part. Elles nous disent, en fait, ça correspondrait bien au niveau de l'âge et au niveau du sexe. Voilà, ce serait plus pour janvier. Voilà, donc du coup, effectivement, ça s'est fait, on a quand même fait des réunions et tout, et au mois d'août, ils nous disaient que c'est entre deux familles, et bref, on a été la famille qui a été prise, donc ça a été super. Donc, mode de garde, génial, mais à 18 mois. Donc, elle a commencé... alors moi, c'est effectivement, comme je disais, c'est que avant ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai commencé à postuler pour des choses avant, sachant qu'elle allait commencer, en fait, la garde à partir de mois de janvier. Sauf que... Alors c'est mon point de vue, c'est que autant je trouve c'est génial d'avoir un an de congé de maternité, pour un premier enfant, peut-être que c'est cool, mais je trouve au moins en France, voilà, quand on retourne travailler au bout de 3 mois ou 4 mois, on est remis directement dans le bain du travail. C'est-à-dire que l'écart, en fait, la pause de congé maternité n'est pas aussi long. Et du coup, moi, quand j'ai postulé, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vraiment un grand gap dans mon CV, en fait, tout simplement un grand gap dans mon CV. Et même lorsque j'écrivais des lettres de motivation et que je disais, voilà, je suis arrivée en Allemagne, j'expliquais que voilà, je suis arrivée en Allemagne, que j'ai eu ma fille, etc. Mais bon, voilà, quoi, là, elle va rentrer en garderie, mais j'ai un enfant, donc du coup, je veux reprendre. Et j'ai eu autant, il y a beaucoup de copines allemandes qui m'ont dit, non, mais voilà, avec les Allemands, faut être honnête, faut être direct. Et autant, j'ai eu l'impression que ça posait un problème. Et d'avoir une aussi longue période creuse, en fait. Mmh. Et en fait, ça aussi, il m'a agacée, parce que je me suis dit, non, c'est pas une période creuse, je me suis occupée de ma fille, c'est pas comme si je m'étais roulé les pouces. Et ça aussi, ça a été super dur de se dire, mais en fait, voilà quoi, ok, c'est génial, il vous donne un an de congé parental, mais en fait, j'ai l'impression que ça te... Je sais pas comment l'expliquer pour, et j'en parle à ma mère et je lui dis franchement si j'ai un deuxième, je veux pas avoir un an. Je veux pas, et je lui dis souvent, je lui dis j'ai l'impression qu'en Allemagne en fait, voilà, ben, si t'es maman, allez, on te supporte, on te donne des aides, on te donne ce que tu veux, mais si tu veux travailler, ah ouais, mais non, occupez-vous de vos enfants. C'est ouais. L'impression que j'ai. Et ça, et vraiment, voilà, quand tu cherches du boulot et que tu rencontres même les kita, pour nous, par exemple, notre kita, c'est de 8, elle est ouverte de 8h à 17h, mais il faut récupérer les enfants à 16h45. Mais tout ça pour là, je me dis, à chaque fois, je me dis, mais en fait, tu fais comment, quoi? Si tu veux vraiment avoir une carrière, tu veux vraiment avoir une vie professionnelle, voilà, tu commences à 8h30 et tu termines à 18h, comment tu fais? Et donc, du coup, j'ai souvent cette impression qu'ok, effectivement, si t'es maman, surtout quand t'es expatriée, ok, c'est super d'être maman. Et c'est pour ça que je le constate dans ma vie de tous les jours là-bas, la plupart des femmes expatriées, elles vont faire 1, 2, 3 enfants parce que c'est comme si, ben, voilà quoi, en plus si tu parles pas la langue, ben ok, mais si tu veux vraiment, j'ai eu l'impression que si tu veux vraiment t'intégrer, te dire ben ok, ben voilà, moi je veux trouver du boulot et je veux faire ceci, comme je disais, c'est moi ce qui m'a toujours surpris, c'est cette femme au pôle emploi, parce que là je me dis ok, il me faut un boulot, je veux travailler, où je lui dis bon ben voilà, moi je cherche un boulot, par contre franco-anglais, c'est ce que je cherche parce que je parle pas très bien allemand, et qui me dit mais vous savez que vous avez le droit jusqu'à 3 ans de congé parental. Et je la regarde, je dis, bah non, tu ne savais pas, mais deuxièmement, en fait, je veux pas, quoi. Je veux vraiment trouver quelque chose. Et en fait, limite, en fait, c'est comme si pour elle, j'ai eu l'impression qu'en fait, elle disait, mais là où j'aurais dû... Je pense qu'elle, elle m'a dit ça en espérant me soulager. Genre, allez, commande. Vous vous rendez pas compte, vous avez de la chance et tout. Et en fait, moi, non, c'était pas un soulagement. Bien au contraire, c'était, ah non, vous m'aidez pas. Bon, la seule chose où elle m'a vraiment aidée, c'est qu'elle m'a dit, bon, par contre, si vous voulez vraiment trouver un boulot, il va falloir parler allemand. Et là, je lui ai dit, ok, bah, il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Et elle m'a dit, bon, dans ces cas-là, on va s'occuper, on va trouver des cours et tout, etc. Et c'est pour ça que, bon, du coup, j'ai pu commencer les cours début de cette année. Et là, c'est génial. Et je trouve que l'allemand, même si c'est dur, c'est très bien. On en reparlera, mais tout ça pour dire en fait que well, en fait t'es au niveau méthode de garde, c'est super dur en fait. Si je trouve que si t'es surtout pour je vois par exemple le cas de mamans maintenant qui sont mamans en France et qui veulent emménager à Berlin, qui ont vraiment du mal avec ce système en fait, justement de garde, et qui se disent mais comment on va faire en fait, parce que c'est, t'as envie de continuer ton activité professionnelle, ne pas t'arrêter pour, voilà, pour regarder tes enfants. Et c'est vrai que souvent, en fait, faut... je vois souvent, c'est le mari qui lui va travailler et la femme qui se retrouve à garder l'enfant. Et ça, je trouve ça assez dur quand même. Donc, surtout quand t'as une vie... surtout qu'à la base, quand t'avais une vie super active et surtout, tu te retrouves dans un pays où, en fait, t'as pas d'amis. Donc je me suis fait des amis. Tu crées du lien social, mais en fait, tu crées un lien social seulement... avec d'autres mamans, parce que la chose, en fait, ce que vous avez en commun, c'est vos enfants. Donc en fait, le lien social, il est là. Vous êtes maman d'enfants, donc vous, du coup, vous discutez, et vous êtes expat, donc forcément, il y a ce lien. Mais c'est pas comme, par exemple, tes amis que t'as depuis 10, 20 ans, où, voilà, vous connaissez, vous vous parlez, même si vous vous parlez pas pendant une semaine, mais ça reprend toujours, ou même un mois des fois, mais ça reprend comme si c'était hier. Et ça, par exemple, je trouve que c'est dur. Parce qu'en fait, tu te rends compte que l'amitié, en fait, est seulement basée sur le fait que vous soyez maman. Et autant c'est bien, mais autant il y a des moments où toi, quand tu dis, ben, j'ai envie de me retrouver mon côté femme, et ben là, en fait, tu te retrouves, mais en fait, avec qui je... Tu vas se dire avec qui je peux vraiment sortir ou avec qui je peux partager certaines choses. Ou... Donc ça, c'est un truc que je trouve dur, même si je me suis fait mais vraiment des copines super en soi. Voilà, maman est super et avec qui on a pu partager justement nos expériences. Mais c'est vrai que des fois, je pense que c'est... Non, c'est pas des fois. Je pense que cette année, tu vois, maintenant, ça fait 3 ans que j'habite là-bas. Je pense que c'est cette année que ça m'a... où j'ai eu vraiment cette révélation de me dire, mais en fait, tes amis, en fait, vous êtes amis parce que vous êtes maman. Et bizarrement, tu vois, ça m'a fait un peu... ouais, il y a eu ce petit côté où... Oh, boule à l'estomac. Où, et surtout quand j'ai entendu une maman française qui, elle, est là depuis... qui a fait ses études là-bas, en fait, qui me disait... oh non, le premier... Parce qu'elle a 3 enfants, et elle me dit... Oh, le premier, c'était super. Toutes mes copines étaient venues me rendre visite à l'hôpital. Et j'ai réalisé, je me suis dit... Mais en fait, personne n'est venu me rendre visite à l'hôpital. Quoi, quand je dis personne, c'est-à-dire ma mère, effectivement, qui est venue me rendre visite, et mon copain et sa maman. Mais sinon, en fait, non, mes copines n'ont pas pu faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'ai eu ce petit côté de... Ah ouais, effectivement, c'est différent quand tu t'es fait vraiment un cercle d'amis depuis que ce soit l'adolescence ou même tes années étudiantes, et quand t'arrives dans ta trentaine et que du coup, voilà, quoi, tu dois te faire des amis. Et voilà.
Et alors, côté culture, du coup, c'est double culture pour Charlotte?
Alors, double culture, du coup, moi, je lui parle en français, son papa lui parle en allemand. Donc déjà pour la langue, ça c'est une première chose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que nous on parle en anglais entre nous. Et on s'est rencontrés. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, on a parlé qu'anglais. Mmh. Donc du coup, c'est même dur en fait. Même des fois, quand je rentre de classe et je suis là, hello my chat, et je commence à parler allemand. Et du coup, au début, on commence, mais dès qu'on doit parler quelque chose de sérieux, en fait, on switch tout de suite en anglais. Mais du coup, pour Charlotte, effectivement, en fait, elle entend l'anglais, elle le comprend, elle le parle pas, par contre, à part des mots qui lui font rire, comme oh my god, en ce moment, c'est ça. Mais c'est trop marrant. Mais mis à part ça, en fait, je sais qu'elle le parle si elle est avec des enfants, voilà, qui parlent anglais, mais sinon, elle parle que le français et l'allemand. Et en fait, double culture aussi, bah, comme je disais, c'est voilà, pour elle. De toute façon, elle sera... Après, en plus, comme je dis souvent, c'est qu'en plus, pour moi, voilà, je suis née en France, mais d'origine de parents, de parents de la Guadeloupe. Donc, du coup, j'ai ma culture aussi de ce côté-là, que je partage aussi avec elle. Et en fait, le fait d'être en Allemagne, des fois, j'ai tellement peur, en fait, bah, qu'elle devienne 100% allemande, entre guillemets, que depuis qu'elle est née, j'ai cette pression encore plus de me dire, mais non, faut que je partage le plus possible, que ce soit la culture antillaise, que ce soit la culture française, il faut qu'elle ait le plus possible. Et après, comme ma mère m'a dit, mais de toute façon, voilà, vous allez venir en vacances ici, depuis qu'on est en Allemagne, elle a été déjà 2 fois en Guadeloupe, donc ça, c'est, et en plus, elle sait qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe, elle reconnaît la carte, donc pour moi, c'est le petit truc de dire, ok, c'est bon, elle connaît, parce que c'est ça, comme je dis souvent, on en parle souvent avec mon copain, c'est pas seulement, elle n'est pas seulement métisse de couleur, elle est métisse aussi de tu vois, parce que je me dis, si t'es un enfant métisse, mais t'es en France, bon, tes deux parents parlent français, tes deux parents ont grandi en France, et puis voilà, sauf que non, elle, non seulement elle est métisse, mais en plus elle est métisse avec une maman qui est française antillaise, et un papa qui est typique allemand, et en plus lui qui est allemand à la base de l'Est, donc c'est aussi notre culture, l'Allemagne de l'Est, c'est aussi une culture aussi qui est particulière, et tout ça, en fait, elle va baigner avec les deux, et ne serait-ce que dans notre manière même d'éduquer Charlotte, on a pas de conflit, mais c'est vrai qu'il y a des fois où, ne serait-ce que, voilà, quand Charlotte est née, j'avais eu beaucoup de cadeaux forcément pour Charlotte. Et lui, je me rappelle, il me disait, non mais en Allemagne de l'Est, on n'avait pas tout ça pour élever des enfants. Donc moi, j'étais là, ouais, mais en France, voilà quoi, ça, c'est normal. Donc du coup, tu vois, t'as ce truc là où t'es obligé de parler. Et après, par exemple, pour l'allaitement, je me rappelle une fois, elle va dire à Jimmy, non mais voilà, moi j'aurais bien voulu allaiter. Et en fait, il m'a toujours dit, en fait, quand une fois il m'a dit, tu sais qu'en fait, quand tu m'as dit ça, j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, pour moi, c'était normal. Mais effectivement, en Allemagne, c'est tellement normal. Ouais. Et en fait, pour lui, comme il me dit, mais en fait, moi, j'ai toujours vu les bébés étant allaités. Même à l'heure d'aujourd'hui, je vois les femmes dans les cafés, tout ça, allaitées. Donc, quand je lui ai dit ça, pour lui, c'était, ben, elle allait faire comment autrement, quoi. C'est pour lui, voilà, c'était pas. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, non, je lui ai dit, en Angleterre, alors je me rappelle toujours d'une de mes collègues qui avait vu une femme qui devait allaiter son enfant et qui avait fait la réflexion, ah non, mais attends, c'est quelque chose qu'elle aurait dû faire chez elle. Et à ce moment-là, j'avais pas encore d'enfant, mais j'étais vraiment restée sur ce truc. La plupart du temps, là, qu'il y avait des mamans qui venaient avec leur bébé, le truc, voilà, et là, toutes mes copines où je les ai vues, je les ai vues, voilà, donner le biberon, etc. Et en France aussi, pareil, pour celles qui ont eu des enfants, c'est soit elles avaient, et je parle d'aller, avant d'avoir Charlotte, hein, je parle vraiment, quand mes copines, même si elles avaient essayé l'allaitement, mais beaucoup, c'était, ah non, ça me va pas, elles avaient arrêté. Donc, du coup, en fait, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, en fait, c'est pas si automatique que ça, en fait. Et après, comme je l'expliquais, il y a aussi les mamans qui ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas l'aide. Donc, du coup, effectivement, il y a ce truc où c'était assez surprenant de se dire, en fait, que pour lui, c'était pas un problème particulier, quoi. C'est même pas un truc à discuter. Alors que pour moi, c'était, parce que ce que j'avais vu, c'était un truc où on aurait dû en discuter, tu vois. Donc, c'était assez...
Et qu'est-ce que tu as fait, alors, toi, pour l'allaitement ?
Moi, j'ai allaité. Alors, en fait, j'ai... Ben, forcément, voilà. Je m'étais toujours dit que je voulais allaiter. Donc, quand Charlotte est arrivée, effectivement, j'ai allaité. Parce qu'effectivement, quand j'ai accouché, le médecin ou la sage-femme m'a dit directement d'allaiter. Quoi, de la mettre sur mon sein. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a eu ce problème de jaunisse. Donc, du coup, effectivement, je me suis dit, OK, elle buvait pas assez. Tout simplement parce qu'elle perdait elle perdait aussi du poids, donc elle buvait pas assez. Et en fait, ma mère, forcément, qui me rendait visite, me disait, non mais attends, comment ça se fait qu'ils ont pas de biberon? Non mais attends, faut lui donner quelque chose, faut lui donner à manger. Et j'arrêtais pas de lui dire, maman, c'est comme ça, le lait va finir par, voilà, va venir, c'est comme ça. Non mais donne-lui au moins un biberon avec de l'eau, c'est pas possible et tout. Je lui dis, mais c'est pas comme ça. En fait, et elle comprenait pour elle, elle comprenait pas que ce que bah en fait. Et c'est vrai qu'en fait, à l'hôpital en Allemagne, à moins qu'il y ait un problème avec le bébé. Sinon, pour eux, en fait, vous allaitez, quoi. Donc, du coup, j'ai allaité, et j'ai même allaité, certains diront trop longtemps, mais j'ai allaité jusqu'à assez 2 ans. Elle avait 2 ans et 2 mois quand j'ai arrêté. Donc, les premières, en fait, la première année, on va dire que, à partir de 6 mois, déjà, c'était seulement le soir, la nuit, et peut-être une fois dans la journée, au moment de la sieste et tout, etc. Et en fait, à partir des 1 an, là, ça s'est transformé vraiment que le soir, on allait se coucher. La nuit, encore, elle demandait, mais pareil, elle demandait parce que c'était disponible. Et donc, du coup, donc voilà. Et en fait, c'est vraiment... j'hésitais à chaque fois, est-ce que je vais arrêter? Et en même temps, on va pas se mentir aussi, il y a un côté aussi où c'était vraiment notre moment. Et c'est vrai que même le soir, on allait se coucher, lorsque je l'allaitais, pour moi, ça, c'était un truc qui était magnifique. Et je me disais, ouais, non, voilà, Lucia, tu t'arrêteras, mais t'es pas... En fait, à un moment, je me rappelais toujours, en fait, avoir pleuré une fois. Charlotte avait même pas 6 mois, elle avait 6 ou 7 mois. Et j'ai commencé à pleurer, en fait, parce que... et dire à mon copain, ouais, non, il va falloir que j'arrête l'allaitement et tout, parce que, voilà, là, elle va bientôt avoir 7 ou 8 mois, donc il faut que j'arrête. Et il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, généralement, c'est l'âge à laquelle on arrête. Et mes copines, pour mes copines que j'avais en France, elles, en fait, elles étaient toutes en train d'arrêter. Il y a même une, elle était retournée travailler au bout des 4 mois, donc elle a dû faire le sevrage. Donc moi, je me dis, non, mais là, faut que j'arrête, en fait. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était moi dans ma tête. Je m'étais dit, bon, on allaite, les gens allaitent jusqu'à 8 mois. Après, c'est pas bien. Et en fait, je m'étais mis ça dans la tête. Et donc, du coup, c'est que lorsqu'il m'a dit, mais pourquoi tu te mets autant de pression? Je me suis dit, Lucia, vas-y, voilà quoi, fais quand tu le sentiras, tu t'arrêteras. Et effectivement, ça a duré 2 ans et 2 mois. Et effectivement, l'arrêt s'est très bien passé. Franchement, ça s'est passé plus rapidement que j'aurais cru.
Et c'était facile, du coup, d'allaiter à l'extérieur?
Justement, c'est ça qui était... Je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai allaité aussi longtemps, c'est que c'était super facile d'allaiter à l'extérieur. Pendant tout le temps où je l'ai fait, par exemple, jusqu'aux 6 mois, lorsque je me baladais avec elle, si j'avais besoin d'allaiter, que si elle pleurait d'un seul coup, elle avait besoin d'allaiter, je pouvais m'arrêter dans un café, je pouvais m'arrêter dans un magasin. Les gens étaient tout de suite, si je disais, oh, voilà, je peux allaiter, tout de suite, ils disaient, mais bien sûr, asseyez-vous, est-ce que vous voulez être là, est-ce que vous voulez... Ils te demandaient même, est-ce que tu veux être en endroit confortable, ou est-ce que vous voulez être dans une cabine d'essayage, est-ce que ça va, vous voulez un verre d'eau, les trucs où tu dis waouh, tu es vraiment super, quoi. Donc du coup, c'est que j'ai pas eu ce côté, comme je disais, c'est moi qui mettais une pression, mais c'est pas, je pourrais pas dire qu'à Berlin, que les Berlinois m'ont mis une pression de voilà, bien au contraire. Et tu te balades près d'un café et tu vois des mamans qui sont en train d'allaiter, et du coup tu te sens, mais vraiment, c'est normal. Voilà, c'est normal. Et donc du coup, il y a pas ce côté, il y a pas de gêne, il y a pas de gens qui vont en plus il y a pas de gêne pour les mamans, elles se sentent pas gênées, mais il y a également, voilà, les gens ne vont pas te faire te sentir mal, en fait, parce que tu allaites. Après, même dans un air de jeu, hein, je l'ai pas fait, mais tu peux être dans un air d'un air de jeu, en train d'allaiter ton enfant, et personne ne vient te voir en disant ben, « Excusez-moi, c'est un peu inapproprié ou quoi que ce soit. Mmh. » C'est vraiment quand je venais en France, en fait, qu'on me faisait des remarques « Ah bon, tu l'allaites toujours ?»« Ah oui, quand même, ah, oui, mais c'est normal, parce que tu l'allaites. » Vraiment des commentaires où je me disais « Ah zut, ok. » Où je me sentais vraiment pas bien, en fait. Mmh. Tu vois, là où je pourrais, par exemple, quand j'allais, voilà, que ce soit dans la famille ou chez les amis, non, pas les amis, pas tant que ça, mais par exemple, chez la famille, j'avais tendance à me cacher, entre guillemets, ou dire est-ce que je peux aller dans la chambre ou quoi que ce soit, alors que, ben, voilà, quand en Allemagne, il n'y avait pas ce côté où il faut que je me cache, il faut que je me retire de la soirée, entre guillemets, où tout se passe, ouais, pour aller allaiter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des trucs qui étaient vraiment, qui étaient durs. Mais après, comme je disais, au fur et à mesure, de toute façon, j'allaitais seulement le soir, donc ça se faisait qu'à la maison. Je le faisais quand on prenait l'avion. À chaque fois qu'on a pris l'avion, pendant tout le temps où je l'ai allaité, je le faisais à ce moment-là pour le décollage et l'atterrissage, parce que c'était souvent recommandé, voilà, que l'enfant boive un biberon, ou si on allait à l'aide. Donc à ce moment-là, je le faisais encore entre guillemets en public, quoi, c'est dans l'avion. Mais sinon, mis à part ça, voilà, au fur et à mesure, ça s'espaçait. Et surtout, je réalisais en fait à un moment donné que c'était devenu une habitude, mais que des fois, elle avait pas forcément envie. Et ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est le moment. Parce que moi aussi, je commençais aussi à ne plus en avoir. C'est pas en avoir envie, mais à sentir la contrainte. Et comme j'ai la contrainte, c'était plus mon corps, en fait. Tout simplement, j'ai l'impression de ne pas retrouver mon corps. J'avais l'impression comme ils disent, les hormones travaillent encore à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, Lucia, faut que tu te retrouves. Là, ça fait 2 ans que t'as accouché. Faut que tu te retrouves, faut que tu retrouves ton corps. Quand je dis retrouver, c'est pas question de poids, c'est vraiment se sentir bien, en fait. Et c'est comme ça, en fait. C'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter, en fait. Et je me suis dit, bon. Allez, 2 ans, c'est bon, allez. Je pense que c'est une bonne chose.
Et alors, 3 ans plus tard, est-ce que tu as trouvé tes repères en tant que maman à Berlin ?
Alors, j'ai trouvé mes repères dans le sens... Alors, 2 choses. On va dire, j'ai trouvé mes repères dans le sens où, voilà, on a l'Akita, qui est super. Et comme je dis, voilà, c'est une initiative parentale. Donc, c'est-à-dire que chaque parent a sa tâche, entre guillemets. Et après, effectivement, je me suis fait, voilà, un cercle d'amis, donc... Ma fille a ses amis, les amis qu'elle aime voir le plus souvent et d'autres. Ce qui est bien à Berlin, c'est que c'est vraiment tout est fait pour la vie de famille. C'est vraiment agréable. Il y a des aires de jeu partout pour les enfants. Après, qu'on se le dise, et ça, c'est un des problèmes, hein, par contre, où j'ai encore du mal, c'est le fait de... Alors, même si, voilà, je prends mes cours tous les jours et tout, etc., j'ai mon projet de styliste consultante aussi qui est en cours. Il y a tout ça. Mais je dois dire que la seule partie où je me retrouve pas, c'est dans les sorties, en fait, où je réalise en fait que je sors pas. En plus, Berlin, c'est super pour les sorties, mais façon de dire, en fait, je fais surtout des sorties parentales, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le seul truc où là, je me dis, bon, ok, là, je commence. Qu'on se le dit, je me sens de mieux en mieux, parce qu'effectivement, même avec mon copain, tu vois, Charlotte était très très collée à moi, et en fait. Là, lui commence à de plus en plus à voilà, s'occuper d'elle, mais en fait, je pense que c'est moi qui commence de plus à me dire, Lucia, t'es pas obligée d'être là 24 sur 24, et à lâcher prise, en fait. Donc, du coup, je me dis, ok, je commence de plus en plus à me sentir un peu libre, à me retrouver, et c'est ça. Et en fait, je pense déjà quand j'ai arrêté l'allaitement, je me rappelle un mois plus tard, je me dis, mais oh, j'étais dans un mood, mais tellement. Ouais, je me sentais super bien, super bien. Et je disais à tout le monde, oh là là, je revis. Et quand on me posait la question, bah alors, il est temps pour le deuxième, je regardais les gens, mais d'une manière, genre, bah non, je suis en train de revivre, là. Et c'est, en même temps, t'as pas envie de dire ce mot-là, parce que tu dis revivre, ça veut dire quoi? C'est comme si, en fait, t'as eu un enfant, mais en fait, ça t'a tué. Alors que non, c'est le truc qui est merveilleux, c'est génial, mais non, mais... Et en fait, tu te sens dans ce truc de, bah, tu veux pas parler négatif de ton expérience, mais en même temps... Je revis en tant que femme. Donc c'est ça le truc, c'est je revis en tant que femme. Après, effectivement, il y a les choses, voilà, quand j'ai des copines qui me disent, ah bah attends, j'ai pu partir un week-end toute seule, ou je fais ça, tout ça, je me dis, oh mon Dieu, j'ai toujours pas fait ça. Tu vois, mais c'est le truc où voilà, quand même, ma fille et moi, jusqu'à maintenant, le plus longtemps qu'on a été séparés, c'est 9 heures quand même. Et mis à part ça, on est tout le temps ensemble. Donc je pense que je me serais totalement retrouvée, et je considérerais peut-être de faire un deuxième enfant seulement, je pense, quand j'aurais eu enfin au moins 24 heures pour moi toute seule. Et c'est pour ça que je dis je revis, mais il y a ce petit truc, tu vois, sortir toute seule, vraiment, quoi, quand je dis sortir, vraiment se dire, voilà, je pourrais aller dans un concert sans avoir à me dire, ok. Et aussi de le faire avec mon copain, parce que le fait aussi d'être en Allemagne fait que j'ai pas recours à des babysitters, même si je pourrais. Hein. C'est pas comme s'il y en a pas. C'est juste que j'ai plus de mal à le faire parce que je me dis non, voilà, en plus à l'étranger, bon voilà. Donc j'ai pas le cercle familial et amical que j'aurais pu avoir en France, donc du coup je peux pas me dire ah bah tiens je vais la déposer avec, chez ma mère, ah bah tiens je vais la déposer chez une copine, ah bah non il y a pas ça du tout. Donc du coup même avec Jamie des fois ce qu'on fait on se dit on se fait des day dates, donc voilà, pour au moins se retrouver, mais c'est voilà, donc on est jeunes ensemble mais c'est au moins c'est super, on fait avec ce qu'on a. Mais du coup c'est vrai que voilà, je pense que je me retrouverai vraiment quand j'aurai eu au moins ouais ne serait-ce que 24 heures pour moi toute seule. Ça c'est vraiment le truc.
Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité?
Alors, waouh, ce que ça a changé pour moi, la maternité, déjà, je pense. Alors, il y a un truc, c'est-à-dire que avant, je pense que j'étais quelqu'un qui m'inquiétait pas beaucoup. Et je suis devenue très inquiète. Mais avant, en même temps, c'est bizarre, mais c'est se dire en fait, à partir du moment où j'ai été enceinte, tu t'inquiètes de comment la grossesse va se passer. Une fois que l'accouchement arrive, tu t'inquiètes de comment ça va arriver. Une fois que le bébé est là, tu t'inquiètes de dire « Ok, j'espère que je vais y arriver. » Et en fait, c'est constamment de l'inquiétude. Donc, pour moi, qui étais quelqu'un un peu « Oh, we'll see, on verra. » D'un seul coup, en fait, donc ça, c'est le côté un peu, pas négatif, mais le côté où tu... Et en même temps, c'est une bonne chose. Tu vois, j'ai l'impression d'être plus alerte. Mmh. Mais une des bonnes choses aussi, c'est que, par exemple, j'adorais les vêtements. C'est un truc, j'étais là « Oh, mon Dieu, les vêtements, c'est génial. » Et je dépensais toujours en me disant « Bah, j'ai pas d'enfant, je peux me le permettre. » C'était la super phrase qui permettait tous les achats. Et c'est vrai que depuis que j'ai Charlotte... Maintenant, je regarde les vêtements et je me dis, mais je suis contente de pouvoir m'habiller avec des choses que j'ai achetées il y a 10 ans même, mais j'ai plus ce même truc. C'est pour ça, voilà, quand j'ai décidé de me dire, oh, j'aime lancer styliste conseillère, je me suis dit, non, la seule chose que je veux pas faire, c'est en fait pousser les gens à faire de la surconsommation. Parce qu'en fait, depuis que j'ai eu Charlotte, j'ai eu vraiment ce côté de, mais en fait, ça sert à rien, en fait. Ça sert strictement à rien. En fait, elle, c'est elle qui remplit ma vie. Et en fait, tout ce que j'ai cru avant, tout ce qui était matériel, qui pouvait soi-disant remplir ma vie, en fait, ça ne fait strictement rien. Et mon copain souvent me dit, mais fais-toi plaisir, faut que tu te fasses plaisir. En fait, je raconte, mais non, en fait, non, ça ne me fait pas plaisir. Je vais faire un achat parce que j'en ai besoin, mais il ne me procure pas du plaisir. Mmh. Et ça, c'est pour tous les gens qui m'ont connue avant, où j'étais pas fashion victime, mais j'adore. C'est un truc où tu dis, ah ouais, effectivement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que je pense que c'est un des trucs où, ouais, d'être pas aussi, c'est pas matérialiste, parce que je pense j'ai jamais été quelqu'un de matérialiste au propre sens du terme, mais c'est vrai de voir les choses d'une manière plus les vêtements c'est pas aussi important, faut être confortable et pouvoir grimper sur des balançoires etc. à n'importe quel moment. Et c'est vrai que Berlin pour ça aussi c'est super, parce que je dois dire que alors même si mon copain aime bien me taquiner en me disant t'es maintenant tu ressembles vraiment à une maman berlinoise, hein, parce qu'avant je me disais oh là là mon Dieu, habitant d'Angleterre, j'étais là non moi je veux pas avoir le look berlinois et tout etc. Et en fait non, je suis trop contente avec mon jean et mes baskets mon porte téléphone en bandoulière qui est super pratique quand tu es dans les aires de jeu avec les enfants maintenant. Donc il me dit ouais, t'as vraiment l'uniforme, mais en même temps je suis là quand il me dit ça, je lui dis bah ouais, mais c'est ça, voilà, je suis à l'aise et ça a plus trop d'importance pour moi, donc voilà.
Justement, on va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Bien sûr.
C'est quoi pour toi être une maman berlinoise?
Alors, une maman berlinoise, c'est une maman cool. J'adore dire ça, en fait. Je dis souvent, les mamans parisiennes sont chic, les mamans londoniennes sont yummy mummy, et les mamans berlinoises sont cool. Et en fait, quand je dis cool, alors, effectivement, il y a l'apparence physique, comme je disais, où c'est vraiment le jean, des Vans ou des Converse, et un t-shirt qui va pas forcément bien aller, et voilà, et un sac à dos. Souvent ça, mais c'est aussi le côté où je pense que, comme je disais par rapport à l'allaitement, il y a vraiment ce côté maman, on a le droit de faire ce qu'on veut, et donc du coup c'est vraiment protéger ses enfants mais en même temps leur faire découvrir le plus de choses possible, faut qu'ils se débrouillent aux aires de jeu, mais en même temps on a en même temps, on est là et on boit du vin. Ça, j'ai quand même du mal à le faire, mais je me rappelle les premières fois où je voyais des mamans en fait avec leur bouteille de vin aux aires de jeu, je me disais oh mon Dieu, oh, ça craint, c'est pas possible. Et en fait, bon, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que maintenant je comprends plus ce concept, en fait, de se dire, mais en fait, il y a qu'à Berlin où tu vois ça, des mamans qui seront, des groupes de même parents, en fait, qui seront là et tout ça. Mais c'est vrai que la berlinoise, pour moi, c'est ça, c'est le côté cool, le côté, voilà, mais c'est côté très maman. Je suis la maman poule, c'est mon point de vue. Vraiment, voilà, je trouve que les Françaises les font les choses vraiment différemment de ce côté-là. Mais donc, c'est un côté vraiment maman poule dans ce sens du terme, avec tout ce qui va avec. Comme je disais, cette histoire de ne pas laisser son enfant garder au bout de 4 mois, mère corbeau. Mais comment on peut créer un terme un terme sur quelque chose comme ça, mais c'est tout ça pour dire en fait voilà, c'est une maman, c'est là-bas, c'est ah oui, non, t'es maman, waouh, ah oui, prends ton temps parental, occupe-toi de tes parents, tes enfants, assure-toi qu'ils mangent que bio, et en même temps à Berlin c'est tellement facile de manger bio, donc c'est voilà, c'est ça.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Berlin?
Alors, c'est super dur. C'est vraiment dur parce que comme je disais voilà tout à l'heure, c'est que en fait à Berlin, je suis en train de penser à tous les... Et on va dans plusieurs cafés. On va dans des cafés, on fait des brunchs, on va manger de la glace. Et tous sont kids-friendly. Okay. Tous, vraiment. Et en plus, le quartier où j'habite, donc j'habite à Prenzlauer Berg, et je pense que c'est un truc que je conseillerais aussi aux gens s'ils visitent Berlin. C'est vrai que ce quartier-là est connu pour le côté... Alors, il l'appelle même... Alors, ça s'appelle Prenzlauer Berg, et en fait, il l'appelle Pregnancy Hill, parce qu'en fait, c'est soit vous rencontrez des femmes enceintes ou avec des enfants. Et en fait... C'est vrai que tout est fait, il y a énormément d'aires de jeu, énormément d'espace, énormément de cafés, des super petites boutiques en même temps, mais c'est vrai que c'est très familial. Et donc du coup, effectivement, je dirais que Prenzlauer Berg est un quartier kids-friendly. C'est vrai qu'en Allemagne, les enfants sont très libres, même par exemple à la Kita. Je parlais de la Kita, donc c'est l'équivalent de la crèche et la maternelle. Les enfants font beaucoup de jeux libres. Et ça choque beaucoup les éducateurs français ou les professeurs des écoles françaises, parce qu'effectivement, en France, c'est beaucoup plus structuré. Même en maternelle, voilà, bah, de telle heure à telle heure, on va prendre ça, on va faire ceci, on va faire cela. Ce qui, moi, personnellement, je trouve ça bien. Donc c'est ça aussi le côté culturel, ou ce qui est dur, parce qu'il y a des choses que moi, je trouve super bien par rapport à l'éducation française. Et en même temps, bah, en Allemagne, c'est les enfants, on les laisse vraiment... allez, je libre toute la journée, parce qu'il faut qu'ils fassent appel à leur imagination, il faut les laisser dans leur créativité. Et donc du coup, effectivement, ma fille, quand on est ici, j'ai vraiment du mal, en fait, quand je suis en France avec elle, parce que autant en Allemagne, je peux, comme je disais, les mamans cool de Berlin, c'est vrai que tu laisses ton enfant vraiment vivre, entre guillemets, tu vois. Et moi, je sais que j'ai un peu ce côté, déjà un peu français aussi, de à chaque fois d'être en mode, non mais fais attention, oh, fais ceci, dérange pas la dame, dérange pas ceci. Et la plupart des gens sont là, ils sont là, non, but that's okay. Ou en allemand, ils vont dire, non, alles gut. Oh. Et toi, t'es là, et ça, je me rends compte, mais Lucia, en fait, t'as vraiment ce côté français où tu vas dans un endroit public, faut pas déranger les autres avec ton enfant. Et donc ici, quand je prends le métro, même tout à l'heure, je prenais le métro avec ma fille et j'ai vu, elle a touché un tout petit peu le genou du monsieur qui s'est retourné et j'ai dit, Charlotte, s'il te plaît, ne bouge pas. Mais c'est dur pour une enfant qui est habituée au jour le jour vraiment de pouvoir s'exprimer, quoi, de faire ce qu'elle veut, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment dur. Mais tout ça pour dire, parce que c'est vrai que j'ai rallongé la question, ouais. Mais tout ça pour dire, en fait, que voilà, kids friendly à Berlin, pour moi, c'est partout.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, que pour moi, déjà, ben, je vais passer un examen au mois de septembre en allemand. Donc, c'est d'avoir de passer mon niveau haut la main et de pouvoir aussi vraiment de me lancer en fait dans mes projets, de que ce soit dans mes projets professionnels et d'avoir un week-end pour moi. Ça, c'est vraiment mon projet pro maintenant. C'est-à-dire que autant avant, c'était un souhait, là, c'est un projet. Je veux mes 24 heures pour moi. Et familial, alors c'est vrai que les projets familiaux, pardon, notre projet, alors c'est vrai qu'il y a la grande question de se dire, est-ce qu'on va rester à Berlin? Et ça aussi, parce que autant moi, je trouve que c'est un super pays pour les enfants, autant mon copain, lui, a ce côté de se dire, ouais, mais bon, voilà, il y a la montée, parce qu'il y a aussi une grande montée du Front National en Allemagne, et sans parler politique, mais c'est vrai que pour lui, en fait, comme il me dit, c'est qu'autant... même si déjà avant il était quelqu'un de très très engagé entre guillemets, mais le fait d'avoir une petite fille maintenant qui est métisse, il me dit autant en France il a l'impression que voilà que les différentes cultures se mélangent bien, autant en Allemagne comme il me dit à part Berlin il a l'impression voilà que que c'est, voilà, il a peur pour sa fille. Donc du coup, on arrive dans ce truc-là en ce moment où autant moi je suis là, ben non, mais c'est bien, c'est super, mais comme il me dit, oui, mais on est à Berlin. Et donc du coup, lui, son truc, ce serait qu'on habite en Guadeloupe. Et c'est vrai que je dois dire que c'est un truc qui où je me dis, ah ouais, ce serait pas mal. Donc ce serait vraiment le projet dont on parle le plus en ce moment, c'est ça. Est-ce qu'on irait quand, quoi, surtout quand est-ce qu'on irait habiter en Guadeloupe? Alors moi, je suis plus j'apprends l'allemand là, donc laisse-moi au moins quelques années. Quelques années, et je lui dis, bon, allez, on va faire la règle des 10, 10 ans en Angleterre, peut-être 10 ans en Allemagne, et après en Guadeloupe. Mais après, ça, que d'autres pays d'Europe, ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. J'aurais voulu que Charlotte puisse découvrir le plus possible, en fait. Mais ouais, à suivre. On verra.
Merci beaucoup, Lucia.
De rien, merci beaucoup, Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et en parler autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lucia, je vous invite à retrouver l'épisode 45 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.